Merci de votre présence et de votre participation. Je suis Aurélien Pradier, je suis député du département du Lot et président du groupe d'amitié France-Afghanistan. Je suis heureux d'avoir à mes côtés ma collègue Frédéric Dumas, députée des Hauts-de-Seine et vice-présidente du groupe d'amitié. Je salue respectueusement notre ambassadeur David Martinon et je salue Madame Robiol et ses équipes qui ont fait un travail considérable de préparation de cette journée. Je voudrais à cet égard saluer précisément aussi Leïla et Laura qui ont fait œuvre de beaucoup de précision durant toute cette journée pour faire en sorte que les choses puissent se passer dans de bonnes conditions. C'est que le collaborateur de Frédéric, évidemment. Quelques mots très introductifs avant de laisser place au contenu des débats et des discussions qui vont vous passionner bien plus que ce que je peux vous dire. Simplement pour celles et ceux qui n'ont pas participé à cette journée intégralement, ce matin nous avons eu avec Frédéric et l'ensemble des participants de la délégation un temps d'échange, je crois, assez approfondi, à la fois sur le travail parlementaire tel qu'il est conçu et pratiqué ici dans la République française, sur les grands équilibres des pouvoirs tels qu'ils sont organisés dans un pays comme la France. L'idée n'étant pas à aucun moment de venir dicter au peuple afghan ce qu'il doit faire, je pense que les échanges que nous avons eus ce matin nous ont permis de considérer qu'aucune démocratie ne ressemblait à aucune autre, et sûrement même qu'aucune démocratie ne devait ressembler à aucune autre. Et je pense que nous avons, nous, députés français, à la fois beaucoup appris des échanges de ce matin, et j'espère que les représentants afghans ont aussi, toujours avec ce respect-là, appris un certain nombre de choses. Nous avons aussi ce matin débattu de la question de la place des femmes dans un processus politique et dans une vie politique. Parenthèse, je parle lentement, non pas que je sois fatigué, mais simplement pour faciliter le travail du traducteur. Et ce sujet est celui dont nous allons particulièrement parler durant cette soirée, celui de la place des femmes dans un processus politique. Il se trouve que la question se pose à la fois de savoir ce que les femmes peuvent et doivent apporter de changement à une pratique politique, quelle qu'elle soit, question qui se pose en France comme elle peut se poser en Afghanistan. Est-ce que les femmes ont quelque chose de particulier, de singulier à apporter à la pratique politique, ou est-ce qu'elles doivent être des hommes comme les autres lorsqu'elles rentrent dans ce monde si particulier qu'est celui de la vie politique ? Mais pour ce qui concerne l'Afghanistan, la question se pose de manière plus particulière, puisqu'il s'agit non seulement de savoir quelle place les femmes jouent dans le processus politique, mais aussi et peut-être même surtout quel rôle les femmes peuvent jouer dans le processus de paix. D'ailleurs, sûrement, la constitution de la paix est-elle le premier processus politique qui aujourd'hui anime, doit et peut animer un pays comme l'Afghanistan ? Et donc c'est une question à la fois exigeante et passionnante de se demander si les femmes ont une place et un rôle particulier à jouer dans ce double processus politique et de paix. Ont-elles un rôle comme les autres à jouer ? Et si ce rôle est particulier, pourquoi l'est-il ? La question du fait religieux est une question qui, évidemment, se pose de manière très aiguisée, à la fois dans la constitution d'un processus de paix et dans la constitution d'une vie politique, mais qui se pose de manière plus accrue encore lorsqu'il s'agit de la place des femmes. Et donc la discussion que nous avons eue ce matin nous a permis de nous éclairer, d'ouvrir quelques pistes de réflexion, et de se rendre compte à cet égard, et je terminerai sur ces mots, que la réussite d'un processus de paix, la réussite démocratique d'un pays, elle tient à une double volonté. La volonté de celles et ceux qui le dirigent, mais aussi la volonté profonde et ancrée de chacun de ceux qui forment le peuple. Il n'y a pas de véritable processus de paix, tout comme il n'y a pas de véritable démocratie vivante et ancrée, si seuls les dirigeants le veulent. Il faut aussi que le peuple le veuille, et le veuille vraiment. Et c'est ce qui est ressorti notamment de nos échanges ce matin, qui laisse ouvrir a beaucoup d'humilité sur ce sujet, en se disant que si les choses étaient simples, elles seraient sûrement réglées depuis bien longtemps. Mais c'est aussi, et je termine sur ces mots, parce que la chose est complexe, qu'elle touche à des valeurs humaines fondamentales, à des défis majeurs pour l'Afghanistan, mais aussi pour le monde, que ce défi-là, singulièrement, fabriquera sûrement quelques héros pour demain et quelques héroïnes, j'en suis certain. Voilà ce que je souhaitais simplement poser comme propos introductif. Je vais laisser avec grand plaisir la parole à Frédéric Dumas, et puis ensuite, je pense que nous ouvrirons les discussions.
Bonsoir. Donc voilà, comme vous l'avez vu, on a une journée dense. Alors moi, je voulais profiter de cette introduction pour rendre hommage quand même à Faïmé Robiol et à Tina Robiol, puisque c'est quand même grâce à elles que tout ça a pu être organisé. Il me semblait en fait très important de mettre en avant et en valeur leurs compétences, car cela signifie, du fait de leur engagement, de leur volonté, de leur détermination, que des choses concrètes peuvent aussi sortir de cette initiative d'aujourd'hui, qui, en fait, est le renouvellement d'une initiative qu'elles avaient prise en 2011, où une dizaine de femmes fraîchement élues parlementaires afghanes étaient venues déjà à Paris pour partager des bonnes pratiques. Donc j'avais quand même assez envie de mettre en avant effectivement leurs compétences, parce que tout le monde peut ne pas les connaître, et vous verrez le lien direct qu'il y a avec le fait que, grâce à elles, on va pouvoir mettre en place des actions concrètes dans la durée, dans le temps, et que ça ne soit pas juste une journée. Donc Faïmé, elle est consultante et maître de conférences à l'ESSEC. Elle a mis des formations en négociation, gestion de conflits, leadership et team building à l'ESSEC, à l'ENA, à l'Université de Paris 3, Sorbonne Nouvelle, à l'Université de Cergy, à l'Institut catholique de Paris, à l'École de guerre et à l'Université libanaise de Beyrouth. Elle organise donc des séminaires sur la négociation de gestion de conflits en Iran pour les managers et les décideurs, ainsi que pour les étudiants MBA de la faculté d'ingénierie de l'Université de Téhéran. Et je vous fais un résumé parce que le truc était comme ça, mais j'ai mis en avant ce qui était important pour nous aujourd'hui. En 2015, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, donc elle a dirigé à Kaboul un programme visant à développer le leadership de 35 dirigeants locaux afghans. Elle est maître de conférences à l'Université de Kaboul, oui, il faut que je ralentisse, j'ai oublié, où elle anime le séminaire sur le genre et les femmes destiné aux étudiants de Master 2. Tina, que je la retrouve, elle est diplômée de l'ESSEC, maître de conférence à l'ENA. Elle a longtemps animé des ateliers de formation également en négociation, médiation, résolution des conflits, à l'École de guerre, à l'ESSEC et à Panthéon-Sorbonne, Télécom Paris Tech. Elle a participé à l'élaboration de programmes de consolidation de la paix en République démocratique du Congo. Elle a développé des programmes de leadership pour des membres du gouvernement et du Parlement, des casques bleus de l'ONU, des ex-rebelles, des leaders de partis politiques, ainsi que les chefs d'état-major des armées. Elle a également développé et dirigé un programme de résolution des conflits pour les élèves du secondaire au Burundi pour le ministère de l'Éducation. Elle a travaillé sur un programme en persan dédié aux femmes parlementaires afghanes, dont l'objectif était de renforcer et de promouvoir la participation politique des femmes en Afghanistan. À ce titre, elle a mené des évaluations sur les programmes de médiation financés par l'Union européenne et dirigés par le HD Center for Humanitarian Dialogue en Syrie et en Libye. Enfin, elle a finalisé, il y a 6 mois de cela, une mission pour l'Inclusive Peace and Transition Initiative, une organisation de recherche et de formation basée à l'Institut universitaire de hautes études internationales et de développement à Genève, qui se concentre en particulier sur les questions d'inclusion des femmes dans les processus de paix. Ce n'est qu'un résumé de leurs longues compétences. Je vais aussi vous annoncer le nom, évidemment, des femmes et des fonctions qu'elles occupent. Elles sont réunies autour de nous avant de passer la parole à son Excellence. Donc, je vais. Alors, que les femmes se lèvent éventuellement quand je prononcerai leur nom. Donc, Madame Marie Akrami, qui est directrice de l'Afghan Women Network. Voilà. Madame Farhanaz Forotan, journaliste à Tolo TV, fondatrice du mouvement Ligne Rouge. Madame Freshta Karim, ancienne collaboratrice au bureau du Conseil de sécurité nationale et au bureau administratif du président de la République d'Afghanistan, fondatrice de Sharmagus, ONG gérant des bus bibliothèques itinérants pour les enfants de Kaboul. Madame Omera Ayoubi, ancienne parlementaire et présidente de la commission parlementaire anticorruption au Parlement, activiste pour les droits de l'homme et de la femme. Madame Shagul Rezaï, parlementaire, membre de la commission parlementaire anticorruption, activiste pour les droits de l'homme et de la femme. Madame Anarkali Onariar, sénatrice. Sic. Madame Sugra Sadat, responsable de programme à Transparent Election for Afghanistan Organization. Madame Masouda Karouki, parlementaire activiste pour les droits de l'homme et de la femme. Madame Farida Momand, candidate au poste de vice-présidente de la République d'Afghanistan, ancien ministre de l'enseignement supérieur. Sur 18, 3 femmes qui sont candidates, donc bravo. Madame Roshan Vardak, membre d'un conseil de la paix régionale. Vient d'un endroit compliqué. Madame Najia Babakarkel, pardon, parlementaire, activiste pour les droits de l'homme et de la femme et pour la culture. Madame Freshta Karimi, cofondatrice pardon, de Dakanun Gushtonki, ONG promouvant l'accès aux droits. Pardon pour la prononciation. Madame Palvasha Hassan, membre du Haut Conseil de la paix, directrice de l'Afghan Women's Educational Center. Madame Atefa Tayeb, candidate à la députation, directrice de l'université Istiklal. Madame Souraya Sobgan. Pardon. Voilà, je pense que j'ai présenté tout le monde. C'est bien. Tout bien. Je vais laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur.
Merci Frédéric. Merci Madame la vice-présidente. Pardon, Monsieur le Président. Merci de cette invitation. Je l'ai dit tout à l'heure, le fait que l'Assemblée et le groupe d'amitié accueillent cette délégation rappelle et vous rappelle, mesdames, qu'il y aura toujours un intérêt à Paris pour l'Afghanistan. Et le fait que les parlementaires s'y intéressent au premier chef est tout de même très symbolique des liens entre la France et l'Afghanistan. Un de vos collègues, tout à l'heure, m'a demandé si j'étais optimiste. Messieurs les ambassadeurs, notre boulot, c'est d'être optimiste. C'est ce que je lui ai répondu. La vérité, c'est que la situation est très compliquée, que le ramadan a été terrible à Kaboul, qu'il y a eu un attentat par jour. Et je vais donner deux, trois éléments d'information pour que chacun ait ça en tête, parce que ça pose quand même le décor de manière assez claire. L'Afghanistan, c'est le pays au monde où la guerre fait le plus de morts. C'est un tiers des pertes mondiales dues à la guerre. C'est aussi le pays au monde où le terrorisme fait le plus de morts. Et c'est aussi le pays au monde où l'on tue le plus de journalistes. Et c'est évidemment très important, alors que nous accueillons Madame Fourotan, qui est journaliste à Tolo News, et en sachant que Tolo News est justement une chaîne assez remarquable qui a payé le prix du sang à plusieurs reprises et qui a perdu un certain nombre de journalistes, comme d'ailleurs l'AFP. L'AFP, à l'été dernier, a connu deux morts, occasionnant 10 orphelins, hein, quand même, le bureau de l'AFP à Kaboul. Donc le contexte est très difficile. Les négociations ont commencé entre l'ambassadeur, le représentant spécial américain Zalmay Khalilzad et la délégation du bureau de représentation Taleb à Doha, qu'il y a eu incontestablement des avancées. Il n'y a pas d'accord, il n'y a que des points de convergence conditionnés. Pour le moment, cette partie-là du dialogue stagne un peu, dans l'attente de l'autre partie du dialogue qui est absolument vitale et qui est ce dialogue inter-afghan que nous appelons de nos voeux et qui met en effet du temps à se mettre en place. Je suis optimiste, je suis plus optimiste qu'avant au sens où désormais, si elle devait s'engager, et nous espérons qu'elle s'engage peut-être d'ici quelques semaines, ces discussions seront mieux organisées et plus équilibrées. C'est-à-dire que face à une délégation Taleb très organisée, très disciplinée, très rigide, il devrait y avoir, si on s'entend du côté de l'Afghanistan légal, une délégation incluant le gouvernement, incluant l'opposition, incluant la société civile. La société civile, c'est-à-dire au moins 50% de femmes. Et je le redis, qu'il est très important que l'insurrection Taleb comprenne que ça ne va pas aller de soi pour elle et qu'elle doit obtenir, gagner la confiance de la population afghane et en particulier des femmes qui n'ont pas oublié les années de l'émirat et les conditions de vie qu'elles ont éprouvées à l'époque. Donc, le fait que ça mette du temps à démarrer, bon, d'abord, ça nous a évité un certain nombre de fausses pistes et d'erreurs, c'est une bonne chose. Ensuite, si ça semble plus difficile maintenant du côté des talibans, c'est probablement que c'est plus équilibré. Au fond, c'est pas une mauvaise chose. Évidemment, le contexte est compliqué aussi parce que nos amis afghans et nous, la communauté internationale qui les soutenons, on essaie de faire trois choses en même temps. On essaye de faire la paix, on essaye de faire l'élection présidentielle, et de ce point de vue-là aussi, il y a des progrès, puisque maintenant, il y a une date qui est arrêtée, il y a des commissions électorales qui ont été renouvelées, il y a des process qui sont à l'œuvre. Nous formons de grands espoirs pour cette élection, parce qu'elle doit être au cœur de la position et de l'identité de la République islamique d'Afghanistan. Ce sont des choses que nous avons dit à un certain nombre de nos amis afghans et étrangers qui considéraient que ce n'était pas forcément une priorité d'avoir l'élection présidentielle au moment où se tenaient des discussions de paix. Bien au contraire, c'est absolument vital. Si l'Afghanistan donne le sentiment à la fois de vouloir négocier pour protéger la Constitution et en même temps donner le sentiment que tenir des élections présidentielles, ce n'est pas si important, le camp d'en face, il va en tirer des leçons tactiques assez simples. Donc c'était absolument vital. Et puis on ne sait pas à quel rythme vont avancer ces négociations de paix. Et donc il était d'autant plus important que le processus électoral se poursuive. J'ai dit qu'on essayait de faire la paix, que vous essayiez de faire la paix, tenir des élections. Et en même temps, il ne faut pas se le cacher, la guerre se poursuit et elle est plus terrible en ce moment que peut-être il y a encore 6 mois. La guerre fait rage partout dans le territoire afghan, ou à quelques exceptions près. Voilà le contexte. Alors, j'ai pas répondu à la question de votre collègue, mais je voudrais quand même rappeler que, évidemment, si on prend les 40 dernières années, ce sont des années de sang, ce sont des années terribles, avec des cycles, avec au moins 2 dictatures épouvantables, on pourrait être découragé à l'avance. Il faut se souvenir que le XXe siècle afghan a été une période de relative stabilité pendant quand même au moins pendant 60 ans. C'est pas rien. C'est pas nous les Européens qui pourrions donner des leçons de stabilité à des pays qui ont obtenu leur indépendance au début du siècle. Et donc, cet Afghanistan-là, il n'y a pas de raison qu'on admette à l'avance que c'est un horizon impossible à atteindre. Mais il y a un certain nombre de conditions. D'abord, il faut aussi que nos amis afghans prennent leurs responsabilités et acceptent de sortir d'un jeu où chacun peut essayer éventuellement de tirer son épingle du jeu. C'est très important. C'est vrai que l'Afghanistan a fait l'objet de plusieurs occupations par des grands empires, c'est l'histoire du 19e siècle afghan, c'est une partie de l'histoire du 20e siècle. C'est vrai. Mais il appartient aussi aux Afghans de se rassembler, de s'entendre, de trouver les moyens constitutionnels de prendre des décisions de manière démocratique et les plus apaisées possibles. Je voudrais citer le professeur Michael Barry, qui est dans la salle, et qui est là, Michael Barry, un des plus grands connaisseurs de l'Afghanistan. qui me disait à Kaboul il y a quelques semaines de ça, qui me rappelait qu'en 1919, quand l'Afghanistan obtient son indépendance, le roi Amanullah a eu trois intuitions qui étaient extrêmement fortes et qui l'a transformé en décision et en politique publique. La première, c'était qu'il n'y aurait d'Afghanistan ou de peuple, de nation afghane, que s'il y avait une forme de citoyenneté. Et donc, dans les actes administratifs de l'Afghanistan naissant, il avait imposé que les ethnies disparaissent, l'appartenance à l'ethnie disparaisse. C'est-à-dire qu'on était désormais non pas Tadjik puis Afghan, ou Pashtun puis Afghan, ou Hazara puis Afghan, on était Afghan. Et puis on venait de Farah, on venait du Badarchan, on venait de telle ou telle ethnie, mais on était d'abord Afghan. C'est la première chose. Et je crois qu'il est très important que nos amis dépassent à un moment la politique ethnique, le jeu ethnique dans la politique afghane. Ça, c'est la première chose. La deuxième intuition du roi, Michael, c'était que tout devait passer par l'éducation. Et dès 1919, il lance un grand programme d'éducation à destination des enfants. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette étape-là a été oubliée sous l'émirat Taleb. Nous avons avec nous une ancienne ministre de l'Éducation. C'est un effort que les Afghans doivent poursuivre parce que vraiment, tout part de là. Et la troisième intuition du roi, c'était qu'il fallait que les Afghans renouent avec leur histoire, avec leur identité, qui est plus complexe que ce que l'on veut bien penser, qui remonte à bien avant la République islamique et à l'islam, qui remonte au bouddhisme, qui a connu le bouddhisme. Le bouddhisme en Afghanistan a connu une étape théorique essentielle dans son développement. Les Chinois sont allés chercher en Afghanistan le bouddhisme. Et puis je passe sur l'héritage d'Alexandre, qui est venu, comme nous le disait Michael, qui est venu s'inspirer en Afghanistan, qui est venu chercher une forme de connaissance. Lui, l'élève d'Aristote, qui est venu chercher un héritage intellectuel. Comment faire pour renouer avec cette identité si complexe? Eh bien, c'est un travail d'archéologie qu'il a souhaité voir engagé à cette époque-là. Et qui, pour faire ce travail, qui avait le savoir et l'expérience pour mener les premières excavations? Ça ne pouvait pas, on s'en est parlé tout à l'heure, ça ne pouvait pas être les Allemands parce qu'on sortait de la guerre. Ça ne pouvait clairement pas être les Anglais, de qui l'indépendance avait été obtenue au prix d'un certain nombre de guerres sanglantes. Et ça ne pouvait pas non plus être les Russes, pour les mêmes raisons. Donc les Français. Et donc la première autorisation d'excavation est donnée à la délégation archéologique franco-afghane en 1921. À partir de ce moment-là, commence une coopération qui est de plus en plus étroite entre la République française et l'Afghanistan. Et je voudrais conclure là-dessus, parce que sur ces trois points, en réalité, la France peut être fière de ce qu'elle a fait, en matière d'éducation, avec les lycées, Istiklal, Malalaï, qui ont fourni de très nombreux cadres de la République islamique d'Afghanistan. L'archéologie, on continue, même en zone de guerre, on se débrouille, on travaille avec l'UNESCO, on travaille avec l'Aga Khan Foundation, mais on continue parce que nous pensons que c'est absolument fondamental. Et j'irai dans quelques temps à Bamiyan, qui est un haut lieu du bouddhisme en Afghanistan, puisque nous pensons qu'il y a un certain nombre de chantiers archéologiques à poursuivre. Et puis, évidemment, plus proche de nous, les docteurs, les French doctors. Quand je suis arrivé à Kaboul, l'ambassadeur américain, fort à la tête de la plus grosse ambassade américaine au monde, qui déverse des milliards et des milliards de dollars sur l'Afghanistan depuis des années, m'a dit, avec un air un peu envieux, en gros, vous mettez plus beaucoup en Afghanistan, mais vous avez un soft power qui est incroyable. Et je l'ai constaté à chaque fois. Et ce qui revient toujours dans les discussions que j'ai avec les leaders afghans, c'est le souvenir des French Doctors. Donc nous en avons ce soir, le docteur Cossé qui est avec nous. Leur action, qui est une action, je le dis, vous le savez, tout le monde le sait, c'était une action parfaitement indépendante de l'action du gouvernement français. Et c'est encore une fois tout à leur honneur. Elle se poursuit, cette fois-ci avec le gouvernement français, à travers l'hôpital de la mère et de l'enfant à Kaboul, que nous essayons de transformer, de faire devenir l'hôpital de référence de l'Asie centrale. C'est dire que nous avons un passé et j'espère que nous avons un futur en Afghanistan. Je suis sûr que nous avons un futur. Et le fait, encore une fois, que les parlementaires français veuillent continuer à s'intéresser à l'Afghanistan est, à mon avis, particulièrement prometteur. Voilà. Je m'arrête là et je voudrais vous remercier encore de votre invitation. J'ai parlé à nos invités afghanes de leur responsabilité particulière. Elle est incontestable, mais vous avez vu avec l'énumération qu'a faite Frédéric que nous avons affaire à des dames de caractère qui sont parfaitement conscientes, je crois, du rôle qu'elles doivent jouer pour l'avenir de leur pays.
Bonsoir. En 1919, l'Afghanistan décide de se soustraire à l'influence britannique et déclare la guerre au Royaume-Uni. Cette guerre d'indépendance se solde par la signature d'un traité de paix en août 1919. Cette année, nous célébrons donc le 100e anniversaire de cet événement. C'est une excellente occasion pour dire que nous sommes ravis d'accueillir cette délégation de femmes leaders afghanes. Mesdames, vous êtes les bienvenues. C'est naturellement après les discussions dans le coin d'une table avec Madame Dureflet qu'on s'est dit, si on veut faire un projet, il faut aller voir l'ESSEC. Et c'est avec beaucoup de bienveillance que le président de l'ESSEC a accepté et que toute la formation se passe à l'ESSEC. Alors, le drapeau de l'Afghanistan qui a été hissé par l'ESSEC à l'extérieur de l'ESSEC, à côté du drapeau de la France et à côté du drapeau de l'Europe, a extrêmement ému les dames en disant « ça, c'est une preuve que la France pense à nous ». La communauté internationale a commencé à se désintéresser de l'Afghanistan. Mais le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'ambassade de France en Afghanistan ont démontré, à travers de ces petites discussions avec un reflet, notamment dans cette période charnière de négociations entre les États-Unis et les talibans en absence du peuple afghan, qu'on peut encore aider et soutenir ce peuple. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'accord d'amitié France-Afghanistan signé entre les deux pays en 2012. Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, à nouveau de la confiance et de l'accompagnement que vous et vos services ont accordé à ce projet. Comme pour le programme destiné aux femmes parlementaires en 2011, l'Assemblée nationale, au travers du groupe d'amitié France-Afghanistan, s'est démontré enthousiaste pour nous aider pour ce projet et permettre aux participants d'échanger avec leur homologue et faire entendre leur voix. À cette époque, Françoise Ostalier, ancienne ministre, ancien député, était à nos côtés, aujourd'hui en tant que présidente du groupe France-Afghanistan. Elle nous a énormément aidés sur ce projet-là. Je tiens à remercier Françoise. Cette année, notre partenariat a été étendu au Sénat. Une séance de travail va avoir lieu avec le groupe d'amitié France-Afghanistan du Sénat et la délégation des droits de femmes demain. Un sincère remerciement à Omar Samad, ancien ambassadeur d'Afghanistan au Canada et à Paris, qui a toujours apporté ses éclairages dans ce complexe dossier qui est l'Afghanistan. Et enfin, je suis très honorée, mais très, très, très honorée est très reconnaissante de la contribution et la disponibilité de M. Stéphane de Mistura et ses retours d'expérience qui sont extrêmement précieuses pour nous. Enfin, ce programme n'a pas de sens sans une adhésion et participation extrêmement assidue des membres de cette délégation. Pendant ces 4 jours de formation, mesdames, vous avez démontré que la femme afghane est loin d'être celle de 2001. Elle a gagné en sens critique, en persévérance et en détermination. Mesdames, vous avez pu renforcer votre compétence et votre façon de faire. Vous avez élaboré des stratégies pour convaincre que vous êtes indispensable et que vous tenez à être prise en compte au-delà des symboles par la communauté internationale et par le peuple. Vous nous transmettez cet enthousiasme qui nous motive à rester à vos côtés et à vous accompagner sur ce chemin qui est le vôtre. Vous aider à être équipé des outils permettront de dépasser les obstacles qui se présentent dans les jours et dans les mois à venir. L'organisation de la tenue de l'élection présidentielle, bien sûr, mais aussi, plus généralement, la construction d'un État irréprochable, indispensable dans les négociations d'une paix durable pour votre peuple. Je suis persuadée que la France et l'Europe ne vous laisseront pas tomber. Vendredi, vous allez repartir dans votre pays avec dans vos bagages des plans d'action très concrets que vous avez développés et que vous souhaitez mettre en œuvre pour l'Afghanistan. Et nous, ici, remplis d'optimisme, nous continuerons à vous soutenir. Je vous remercie, je vous encourage et je vous souhaite bon vent. Tous nos vœux de réussite vous accompagnent. Merci. Maintenant, je fais un petit peu l'organisation pour que mesdames arrivent à la table. Donc, on va faire la première table ronde dont on va regarder l'ensemble des acquis qui ont eu lieu depuis 2001. Jusqu'à maintenant. Donc, j'invite la première table présentateur de table ronde de venir nous joindre et on va leur laisser la place. Comment ? Évidemment, je remercie l'ensemble des participants et tous ceux qui nous ont aidés, et Frédéric, Aurélien, David, Leïla, Étienne et Laura. Je suis trop petite. Pour la première table ronde, j'appelle Madame Nadia Babagerkhel, Madame Farajte Karimi, Madame Soraya Souprang, Madame Farajte Karim, et enfin, voilà, ça fait les 4. J'invite également Monsieur Omar Samad et Monsieur Demistura pour rejoindre aux femmes.
Bonsoir à tous et à toutes. On m'a demandé d'être modérateur de ce panel et j'ai l'honneur de modérer ce panel avec mon collègue et ami, l'ambassadeur Stéphane de Mistura. Je suis ravi d'être ici, bien sûr. C'est un honneur d'être ici avec tout le monde. On m'a aussi demandé d'éviter de parler en anglais et que je parle en français. Malheureusement, depuis que j'ai quitté Paris, je n'ai pas trop l'occasion de pratiquer mon français, mais je vais essayer de mon mieux de faire ce qui est possible. Et de temps en temps, peut-être essayer de parler en dari aussi, s'il y a besoin de changer de langue. Je voudrais aussi rendre hommage, si possible, ici à plusieurs autres personnalités qui ont joué un rôle pendant des années dans les affaires afghanes. Je veux rendre hommage non seulement, bien sûr, à l'ambassadeur Martineau qui, en ce moment, représente la France en Afghanistan, mais aussi un des anciens ambassadeurs et cher ami, l'ambassadeur Jean Damicourt, qui était ici avec nous aussi. Merci de votre présence. Nous avons aussi deux anciens diplomates afghans et des hommes remarquables qui ont représenté l'Afghanistan auprès de l'UNESCO. L'ambassadeur Fazeli, qui est ici, et l'ambassadeur Aziz, qui est quelque part derrière, je pense. Merci de nous joindre aussi ce soir. Et je veux, à mon tour, aussi remercier les députés qui sont ici et le groupe d'amitié France-Afghanistan. Je me souviens de Mme Ostalier quand j'étais à Paris et on se voyait de temps en temps. Il y avait beaucoup plus, il y avait beaucoup d'affaires entre les deux pays. Pendant les années 2009, 2011, 2012, les choses ont changé et changent, et on espère que l'amitié entre les deux pays et la coopération et les relations à tout niveau vont augmenter d'ici l'avenir. Ça, c'est mon espoir à moi personnellement en tant qu'ancien ambassadeur d'Afghanistan à Paris. Je suis ravi ici, on est dans un panel avec quatre dames qui viennent de Kaboul et j'avais l'honneur d'être avec elles et les autres hier soir à ESSEC et elles avaient une présentation sur tout ce qui représente les gains et les acquis depuis 2001. Bien sûr, l'Afghanistan, on connaît tous l'histoire plus ou moins. Je me souviens aussi très clairement, quand j'étais enfant, du moment où, de cette période où on était afghans, on était tous afghans. Et il n'y avait pas une question d'ethnie ou de région ou de religion. On était tous citoyens du pays et on espère qu'un jour, on avance vers le même modèle et que l'unité nationale va être rétablie en Afghanistan et que tous les citoyens, dans un ordre démocratique et constitutionnel, pourront bien sûr être co-citoyens, que ce soit homme ou femme, et avoir les mêmes biens et les mêmes droits sous un régime constitutionnel. Je vais commencer avec Madame Nadia Babakarkhel, et je vais lui demander de nous expliquer comment elle perçoit les gains et les acquis dans son domaine depuis 2001. Et peut-être, si vous voulez, vous pouvez aussi parler un peu des défis, mais plus tard, on aura aussi l'occasion de parler des défis. Mais je vais vous donner la parole tout au début. Merci.
Bonjour, bon après-midi et bonne soirée. Je voudrais présenter ici les acquis qui sont plutôt des acquis personnels qui touchent au fait la partie de l'éducation qu'on a pu obtenir avec l'aide de la communauté internationale depuis ces 18 ans et particulièrement la France. Je veux partager ces expériences avec vous. Dans le domaine de l'éducation, comme monsieur l'ambassadeur a présenté, nous avions une bonne démocratie et avec les guerres et le départ des talibans, il n'y avait pas d'école et les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Et avec les aides qu'on a pu avoir de la des institutions internationales et aussi le gouvernement aujourd'hui, on peut constater qu'on a 9 millions d'élèves qui vont à l'école. Et ça n'a pas été chose facile. Il y avait des difficultés. Et nous avons réussi, car nos enfants peuvent participer pour aller à l'école. Et et 85% des enfants, millions partis. Et dans le domaine de l'éducation, il y a des difficultés, des différences haussamment au niveau des femmes. Mais la plupart des problématiques par rapport au programme de guerre des dernières 40e années de guerre, et on doit donc être focus, attentif, que la guerre crée des risques. Et dans le domaine que des participations de nos enfants à l'école et la qualité hein, de ces enseignements, car il y a énormément de difficultés par rapport à nos enfants. Et la non-présence des enseignants, le peu d'enseignants, et comme il n'y a pas des enseignants femmes, les élèves femmes ne peuvent pas aller à l'école. Et le gouvernement, avec l'aide, ont pu essayer d'attirer des enseignants et pouvoir créer des cours de courte durée pour que ces cours d'enseignement, de formation pour les enseignants puissent aboutir avec une stratégie qui a été mise en place. Mais il y a aussi des difficultés dans ce secteur et avec une coopération de la communauté internationale et avec leur aide, nous avons pu jusqu'à un certain point régler les problèmes. Dans le domaine de comment les familles ont pu emmener leurs enfants à l'école, nous avons aussi on a constaté des difficultés. Et la liberté de parole aussi dans les médias ont été observées. Nous avons donc une télévision une chaîne de télévision qui est consacrée à l'éducation. Et donc il y a de la presse locale et même dans des régions éloignées. Et nous avons pu donner des informations, transmettre des informations dans des régions éloignées, car même une femme afghane sait qu'il est nécessaire d'avoir accédé à l'éducation et ils souhaitent que leurs enfants puissent s'orienter vers l'éducation. Il y a aussi Internet, les nouvelles technologies qui peuvent aussi être efficaces dans ce secteur. Et en matière de collaboration, comme aujourd'hui nous sommes en France, je peux rappeler que ce n'est pas que uniquement aujourd'hui, mais depuis 97 ans, nous avons une collaboration proche avec la France, comme avec l'université de Esterlal, et donc la division féminine de Malala a formé beaucoup de cadres et toujours très réputés. Dans le domaine de la création de l'environnement de l'éducatif, aussi bien le centre culturel français qui se trouve en Afghanistan. Et je voulais juste de nouveau encore rappeler que notre collaboration, notre amitié, aussi bien dans le domaine culturel depuis donc longtemps, depuis ces 97 ans, ont été lieux. Mais nous souhaitons qu'il est urgent aujourd'hui et a besoin de l'aide dans le domaine de l'éducation. Et c'est finalement la base hein, de commencer par la formation. Et cela devient urgent au niveau mondial. Et principalement, c'est avec la France, on a une ancienne collaboration culturelle. Et j'attire l'attention des responsables dans ce domaine. Et j'ai entendu dire voilà, essayer de résumer un peu les questions parce que le planning est assez chargé. Nous avons des collègues qui ne peuvent pas forcément rester. Et je demande à Madame Ferechte de pouvoir exprimer ses points de vue.
Bonne soirée. Notre ami nous a parlé de l'éducation et de ses acquis در اجده سال گذشته افغانستان دستاورده زیاد داشته و در بخشی که دستاورده واقعا چشمگیری داشته بخش زنان بوده. در اجده سال گذشته زنان واقعا در بخش های مختلف دستاورده خوبی داشته که من به چهار بخش زو اشاره میکنم، چهار بخش اساسیش. یکی از او بخش رهبری و مشارکت سیاسی زنان بوده. یعنی در اجده سال گذشته ما واقعا توانستیم دستاورده خوبی داشته باشیم در سطح پارلمان که ما زنان
نو سوا بن سی بن سی جی فی لا ترادکسیون یس وی وی یانا سور لا شین اون
دستاورد داشته ما اشاره میکنم.
Vous pouvez lui demander de reprendre les quatre acquis, s'il vous plaît, pour reprendre les quatre acquis, pour que je puisse... Prenez... Oui, prenez la... C'est eux qui se sont trompés. Dans les quatre acquis, où les femmes ont eu des acquis merveilleux, je vais dire... C'est le secteur de la direction et de la participation politique des femmes, où les femmes ont eu, dans ces 18 dernières années, beaucoup de merveilleux acquis, surtout au niveau parlementaire. On a eu des 27, on a eu 28 élues femmes, même plus que la Constitution. Dans le cabinet, on a la présence des femmes. Dans le procès de paix, on a beaucoup de femmes qui travaillent aussi. Dans la section de gouvernement aussi, les femmes travaillent beaucoup, par exemple dans les il y a trois dames qui sont candidates à la présidentielle. Les femmes qui ont eu beaucoup de acquis, c'est le système judiciaire et juridique. Par exemple, dans notre constitution, il y a la loi concernant l'interdiction de la violence, l'interdiction contre les femmes. Nous, on a pu vraiment attirer l'attention sur beaucoup des problèmes que les femmes subissaient. Nous avons pu nous pencher dessus. Il y a beaucoup de juges femmes et d'avocates qui travaillent dans la justice en Afghanistan. Il y a eu beaucoup de femmes qui augmentent. Donc, par exemple, en 2003, nous avons eu dans notre système juridique, sauf trois avocates seulement. À l'heure actuelle, on a 4500, des 4500 avocats, on a 300 et quelques femmes. Et ça, c'est très important parce que ça aide le processus de la justice et ça aide les femmes à avoir accès à la justice. Dans les affaires aussi, les femmes ont eu beaucoup de progrès. Par exemple, il y a 18 ans, quand les femmes pouvaient avoir un petit commerce ou bien dans les industries, elles n'avaient pas beaucoup de revenus. On leur donnait pas de salaire. Mais à l'heure actuelle, c'est très important et on a 11 150 boîtes dirigées par les femmes qui peuvent travailler. On a un parc industriel où 300 femmes travaillent. Il y a eu beaucoup d'investissements de la part des femmes et le président de la République aussi aide et encourage ce processus. Et même, il somme les autres de travailler avec ces femmes, de coopérer avec les femmes pour que les femmes puissent profiter de leurs acquis. Donc, dans les 18 dernières années, on a eu de merveilleux acquis. Et si on compare l'Afghanistan d'aujourd'hui avec l'Afghanistan du passé, nous voyons qu'on a eu beaucoup d'acquis. Donc, nous insistons sur le fait qu'il faut les continuer, les encourager et le soutien de la communauté internationale est nécessaire. Madame Sobrang. au nom de Dieu clément et miséricordieux, avec les salutations. Je vous salue, mes chers amis. Et on m'a dit qu'il fallait parler moins vite ou bien qu'il fallait plus court, mais je dois dire que je veux parler des progrès à l'échelle de la démocratie. Je vais vous parler de ça. Comme on dit, après la chute des talibans, l'Afghanistan, en raison, pour pouvoir, les talibans ont fait la terre brûlée, donc on a perdu tous les fondements de nos structures, infrastructures sociales et culturelles, et le peuple était fatigué là de tout, et on était privé de tout, et psychologiquement 70% de notre population subissait des traumatismes psychologiques. On se dit qu'après 18 ans, on peut toujours avoir une maison et un foyer, mais avec les traumatismes psychiques qu'on a subis, c'est trop difficile. Mais là où on a commencé, au point de vue infrastructurel, les infrastructures du pouvoir et les organismes démocratiques, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on a le Parlement, on a des commissions indépendantes électoraux, on a des conseils des régions, on a les commissions et on a le conseil indépendant des droits de l'homme. Et à côté de cela, notre constitution, qui est le plus important de notre document d'instrument légal de notre pays, il est souligné que le président de la République doit être élu au suffrage universel. Les députés du Parlement, les élus des conseils régionaux et conseils de province doivent être élus au suffrage universel. Donc, dans un autre... au niveau juridique, dans notre constitution, il est écrit que pour la première fois, on est citoyen égal, à part égale. Alors, les citoyens afghans ont les mêmes droits. Il y a la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté des partis politiques, des rassemblements. C'est sans précédent et tout cela est prévu et nous sommes honorés de voir ces acquis dans notre constitution. Alors, avec les engagements qu'a pris le gouvernement suivant, partant de notre constitution, en tenant compte de charte des droits de l'homme, de l'ONU et aussi tous les instruments internationaux des droits de l'homme. Et nous les respectons, nous tenons. Durant ces 18 années, on a signé, et on est vraiment commission d'interdiction de torture et des sévices, nous avons signé les conventions des droits politiques, les conventions des droits culturels et sociaux. Nous tenons à cela. Et puis la résolution 235, nous tenons à ces acquis. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que en raison du fait que dans toutes ces 18 années, nous avons été toujours menacés, ces acquis, et donc ces acquis étaient menacés, et donc c'est très dangereux, c'est très fragile ces acquis, parce qu'ils ont été toujours menacés. Alors pour les renforcer et pour faire installer les valeurs démocratiques, il nous est nécessaire d'avoir la puissance et le soutien de la communauté internationale, surtout de votre très beau pays qu'est la France et le gouvernement de la France. Nous avons besoin de votre soutien pour que, en raison de tous ces progrès qu'on a et tous ces acquis, nous, dans l'histoire d'Afghanistan, on a un jour très pérenne, très important. C'est le jour où il y a eu lieu la première élection de présidentielle après des années d'injustice, et tous les gens sont allés avec beaucoup d'émotion aux urnes pour voter. Et cela, notre acquis, c'est le principe des élections est devenu un principe de la démocratie en Afghanistan. Et nous espérons que ça reste pérenne et que ça soit toujours comme ça. Et que dans le processus de la paix, nous insistons, nous mettons l'accent sur la justice, que la justice ne soit pas sacrifiée à l'autel de la paix. Aucune paix ne peut être pérenne sans la justice. Et nous espérons que vous tenez compte de cette vérité. On m'a encore dit qu'il fallait se dépêcher. Je vous demande d'être assez succincte. Je suis très contente de toute cette énergie pour l'Afghanistan. Ça m'aiderait à parler plus vite et mieux. En ce qui concerne la partie des médias, quels sont les acquis des médias en Afghanistan? En 2001, les gens, c'était très difficile pour les gens de parler librement. Et là, maintenant, dans les 18 dernières années, on a pu faire entendre notre voix. On a eu beaucoup de médias, aussi bien audio que visuel. Rien qu'avoir ces médias audio et visuels, ça aboutit à ce que l'Afghanistan est l'un des médias les plus libres dans la région. Et cela, c'est vraiment, ça nous intéresse beaucoup parce que dans un pays qui sort d'une guerre, son État, son gouvernement a pu défendre la liberté de l'expression du peuple. Et les gens, le peuple a pu profiter de cette occasion pour faire entendre sa voix. Il y a quelques mois, quand les négociations de paix ont été lancées entre... Alors, on ne prend pas beaucoup au sérieux les femmes. Farhanoz Furutan a juste mis un message très rapide en disant « ma ligne rouge », en disant que ma ligne rouge est la liberté d'expression. Et elle a publié ça dans un média. Alors, tout d'un coup, il y a eu un grand débat. Alors, tout le monde, il y a des millions de personnes ont regardé ce message et chacun traçait sa ligne rouge, défendait ses valeurs, qu'est-ce qu'il ne fallait pas perdre au cours de ces négociations de paix. Donc, cela montre quelle est la force des femmes et aussi la force de la liberté d'expression. Et je pense que ça peut être très important comment quelque chose d'important et précieux nous avons et qu'il faut absolument la protéger. Parce que un de nos tracas majeurs, c'est que l'année dernière, il y a eu beaucoup de journalistes qui ont été tués et ont été victimes des attentats parce que les journalistes sont importants. Et ça, nous demandons si on va perdre nos amis avec ce processus de paix, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de voix libre, les journalistes doivent mourir, doivent pas avoir leur liberté d'expression. Est-ce que le peuple afghan, avec cette liberté d'expression, peut être avec le gouvernement et pouvoir penser, réfléchir, résoudre les problèmes du pays? Merci beaucoup. En vous remerciant,
ambassadeur de Mistura, de nous donner un petit compte-rendu peut-être et aussi votre avis à propos de ce que les dames afghanes nous ont déclaré ce soir.
Merci. Et je m'excuse avant tout parce que je dois prendre un train à 7h30, donc, et c'est l'occasion juste pour moi de pouvoir faire des commentaires. La question qu'on a écoutée, dire en peu, un mot, c'est que les femmes afghanes sont ici pour nous rappeler qu'ils sont préoccupés. Okay? Ils sont en train de montrer leur courage, ils sont en train de montrer leurs compétences, mais la vérité, c'est qu'ils sont préoccupés. Et l'idée de venir ici en France, ce n'est pas par hasard, c'est pour dire on a besoin de vous, femmes françaises, hommes français, pour qu'on n'oublie pas c'est que nous avons souffert quand les talibans étaient au pouvoir. Et ce qu'on a pu obtenir grâce à votre présence, vous, la France, avec 50 pays, avec l'Amérique, et tous les autres pour qu'on puisse devenir ce qu'on est. Ça, c'est les messages à la fin. Tout le reste, on peut les voir par écrit, mais il faut regarder dans leurs yeux et comprendre pourquoi ils sont venus ici. Et pourquoi ils pensent et espèrent de pouvoir retourner en Afghanistan, pas avec une... Bon, on vous souhaite les meilleures chances et Allah Karim, que Dieu vous bénisse, mais bien le contraire, qu'on soit avec vous pendant cette période, et une période dans laquelle ils ont peur de tout perdre. Il y a un tiers des femmes qui sont dans les parlements, il y a un tiers des femmes qui sont dans les services civils. L'ambassadrice en Amérique est une femme. Il y a des policiers, il y a des militaires, il y a des juges, il y a des avocats remarquables, il y a des politiciens, un vice-président potentiel. Il y a la télévision et la presse. Tout ça, ils ont peur de les perdre parce que l'Amérique a clairement indiqué qu'ils ont envie de partir. Qui peut dire le contraire après 17 ans? On est tous d'accord que 17 ans est difficile à justifier pour toute la communauté internationale. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose, et il nous le rappelle tous les temps, depuis quand on s'est vu, qu'on n'est pas seulement rentré en Afghanistan parce qu'il y avait M. Bin Laden, et que M. Bin Laden a fait ce qu'il a fait, une horreur. Bin Laden n'est plus là, d'accord. Al-Qaïda est toujours là, mais pas fort. Et il n'est pas fort. Mais c'est que la vraie raison pour laquelle on est là encore et on veut rester là-bas, avec eux, avec elles, c'est qu'on se souvient de ce que les femmes ont subi pendant cette période. Vous vous souvenez, ils ont perdu l'éducation, ils ont perdu la chance d'aller à l'école, ils ont perdu la chance de sortir de leur maison et on les a obligés de s'habiller avec des burkas. Conclusion. Vous écouterez encore beaucoup d'exemples dans le reste de cette importante réunion pour laquelle les femmes afghanes sont en train de vous dire « On a obtenu ça, aidez-nous à ne pas les perdre. » Et la conclusion meilleure, c'est avec un excellent ambassadeur que la France a là-bas et avec un pays comme la France qui a toujours défendu les femmes et surtout en Afghanistan, quand il y aura les négociations, et elles sont imminentes, dans ces négociations, on ne va pas simplement dire aux talibans, OK, écoutez, on arrête là. Vous nous promettez des pas et de donner jamais plus la permission à Al-Qaïda d'être là parce que c'est eux qui ont fait l'attaque à les Twin Towers. Mais pour le reste, c'est une question afghane. Ce n'est pas une question afghane. C'est une question pour nous tous. On n'oubliera jamais combien de fois moi-même j'étais en Afghanistan et avec toi, Jean. Pour aller aux funérailles des soldats français qui sont morts, pas seulement parce que Bin Laden était là, mais parce qu'on était tous d'accord qu'on ne va pas permettre plus aux femmes afghanes, 51% de la pourcentage de la population afghane, de retourner comme ils étaient avant. Ça, c'est les messages qu'ils sont en train de nous dire avec beaucoup de gentillesse et je me permets de les dire à vous avec beaucoup de franchise. Merci.
Merci.
مرسی بکو بسیار تشکر از شرکت شما و اظهاراتتان از پنل دوم تقاضا میکنیم که اگر لطف کنند بیان جای خود بگیرند
وی لو دوزیم پنل
مادم همیرا ایوبی مادم عاطفه طیب و مدام سورا سعادت
اشتباه کرده که Ok, mais Tina m'a dit que celui-ci va parler. Il parle de maintenant et du futur, ou des challenges.
On parle du futur.
Et celui-là, il parle des défis.
Tout ce qui a été anéanti depuis 2014.
Alors, merci, mesdames. Le premier panel a parlé de tout ce qui était acquis depuis l'intervention de la communauté internationale depuis 2001. Depuis 2014, qu'on a commencé à quitter l'Afghanistan, un certain nombre de projets qui ont été lancés ont été arrêtés. Un certain nombre des choses qui étaient des acquis ont commencé à dégrader. Donc, deuxième panel, ils vont nous parler de cela. Donc, je donne la parole à Sorojan, je m'appelle Femme.
Panel aval.
Le premier panel nous a parlé.
Ma واقعاً دوست ندارم که در مورد نقاط ضعف کشور خود بگویم و یا اینکه مشکلاتی که ما با او دچار هستیم، اما ناچار هستیم که بالاخره ببینیم تمام این مشکلات را تحلیل کنیم، ارزیابی کنیم و در نهایت بتونیم برای زور راه حل پیدا کنیم. برای گفتنش برای ما بسیار سخت است که تک تک مشکلات خود، مخصوصاً بحثی را که من میکنم در رابطه با حکومت ما، در رابطه با تطبیق قانون اساسی و همچنین در رابطه با انتخابات، سه بحثی است که بسیار مهم، بسیار سرنوشت ساز هست و صحبت در مورد از اینا بسیار برای ما سخت است، مخصوصا گفتن نقاط ضعف این مسائل. متاسفانه بعد از مشکلاتی را که ما گذشتاندیم، فعلا وضعیت موجود وضعیتی هست که رضایتمندی شهروندان در افغانستان از حکومت بسیار ضعیف کرده و مردم افغانستان او رضایتمندی را که باید از حکومت خود داشته باشند ندارند. که بیشتر دلیل از این چند موضوع بسیار کلان هست. بحث امنیت هست که ما بسیار با مشکلات امنیتی نه تنها در ولایت بلکه در مرکز یا پایتخت افغانستان کابل با او مواجه هستیم و هر روز قربانی میتیم. و بحث دوم این هست که ما مشروعیت سیاسی نظام ما یا حکومت ما با یک علامت سوال بسیار کلان مواجه هست و زیر سوال هست، به خاطر از این که ما انتخابات 2014 را یک انتخابات خوب نداشتیم و این حکومتی که ایجاد شد از مجرای یک تفاهم سیاسی به وجود آمد که در جایگاه در قانون اساسی هم جایگاه حقوقی نداره. حاکمیت قانون متاسفانه ضعیف هست. ما قوانین بسیار خوبی را تصویب کردیم و داریم، اما در بحث تطبیق قانون بسیار ضعیف عمل کردیم و ضعیف هستیم. و یک نارضایتی بسیار کلان دیگه در مقابل حکومت و شهروندایی هست که حکومت هنوز هم نتانسته یک مکانیزم درست پاسخگویی را ایجاد کند تایی که در مقابل مردم خود پاسخگو قرار بده و حداقل بر مردم جواب بده. و یک مشکل دیگه که بسیار با اون مواجه هستیم، انحصار قدرت توسط یک گروه خاص هست که کمتر فرصت برای شهروندهای دیگه میتن که خود احساس کنن داخل سیستم و بخواین برای سیستم کار کنن. در رابطه با قانون اساسی میتونم بگویم که قانون اساسی ما در منطقه بی‌نظیر بی نظیر هست، یک قانون اساسی بسیار خوب هست، اما در کنار از او هم مشکلات و ابهامات و اقمازات زیادی داره. یک ریسرچی که در این اواخر صورت گرفته نشان میده که 58% قانون اساسی ما در طول 14 سال گذشته نقض شده. یعنی این نشان میده که ما بیشتر از نصف ماده های قانون اساسی را نقض کردیم در طول 14 سال گذشته، و این ناقصهای اصلی را هم نشان میده که مقامات دولتی و زورمندا هستند که این واقعا جای تاسف هست برای ما. در رابطه با انتخابات پارلمانی، چون وقت بسیار کوتاه هست و مسائل بسیار کلان، اما من سعی میکنم که مسائل را بسیار خلاص بگویم. بحث انتخابات پارلمانی 2018 برای مردم یک امید بود که حداقل ما بتانیم این انتخابات نسبت به انتخابات ریاست جمهوری 2014 یک انتخابات نسبتاً خوب داشته باشیم، اما متاسفانه ما نتانستیم که یک انتخابات قابل قبول داشته باشیم، و این انتخابات یک انتخابات پر از نقص فنی و تکنیکی بوده. برای ما تنها امنیت نبود که ما مشکل داشتیم در انتخابات، بلکه تقلبات گسترده صورت گرفت، مداخلات بسیار گسترده از طرف گروه های سیاسی در انتخابات صورت گرفت. ما تا 7 ماه نتانستیم که نتایج انتخابات پارلمانی خود اعلان کنیم، و در این 7 ماه دستبرد های بسیار کلان در نتایج انتخابات زده شد، و همچنین فساد کلان مالی در انتخابات صورت گرفت. این مشکلاتی بود که ما در انتخابات 2018 خود با او مواجه بودیم، و در نهایت امروز هم ما در پارلمان مشکلات زیادی را دوچار هستیم و هنوز هم نتانستیم که مشکلات خود را در داخل پارلمان حل کنیم. تمام این موضوعاتی بود که ما درست است که دستاوردهای بسیار خوبی را داشتیم در 18 سال گذشته، اما ما امروز به مقامی رسیدیم، به وضعیتی رسیدیم که میتونیم تحلیل کنیم که درست است که به این دستاوردها رسیدیم، اما ما خواستمان بیشتر از این هست. ما خواستمانی هست که حاکمیت قانون باشه، نظام پاسخگو باشه، آزادی بیان باشه، انتخابات شفاف برگزار شوه، و تمام از اینها خواستای ما هست که در کنار حفظ دستاوردهای گذشته میخواییم که اینها را هم داشته باشیم تا اینکه بتانیم در یک فضای بهتر زندگی کنیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شما حضار گرامی. چون فعالیت ما بیشتر در عرصه معارف و تحصیلات بوده، میخواییم که به مشکلات و چالش هایی که افغانستان فعلا به اون مواجه هست در عرصه بپردازیم. ما نمیتونیم انکار بکنیم که با خروج طالبان از افغانستان و حضور نیروهای جامعه جهانی در افغانستان، یک صفحه جدیدی در تمام عرصه ها به ویژه در عرصه معارف و آموزش و پرورش باز شد. اما متاسفانه او دستاوردها در حد بسنده نبوده و هنوز هم ما چالش های زیادی را داریم. گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان میده که فعلا 80% خانم ها و 60% مرد ها در افغانستان از نعمت سواد بی بهره هستند، و این آمار و ارقام بسیار تکان دهنده هست که با وجود مصارف هنگفت جامعه جهانی چرا ما این مشکل را داریم. به شکل خلاصه 3 نکته را میخواییم اشاره بکنم به عنوان عوامل عمده‌ای که باعث به وجود آمدن ای رکود آموزشی در افغانستان شدن. اولین عامل برمیگرده به جنگ و ناامنی که روز به روز در حال افزایش است در افغانستان. بسته شدن مکاتبی که قبلا باز بود در افغانستان، به اساس آمار وزارت معارف افغانستان تنها در سال 2017 1075 مکتب در افغانستان بسته شده. اکثر مکاتب مربوط مناطق ناامن افغانستان و اکثرا هم مناطق دختران نبودن. دختران تهدید میشن برای رفتن به مکتب از سوی طالبان، و مکاتب هم که دخترانه هستن تبدیل میشن به مکاتب پسرانه، و اون مکاتب پسرانه هم زیر سلطه و زیر مدیریت طالبان هست در اکثر او مناطق. و مسئله ای که بیجا شدن های داخلی خانواده ها به دلیل ناامنی ها که قادر نیستن دیگه اطفالشان رو به مکاتب ارسال بکنن، این هم به این مسئله افسوده و در نهایت امروز به اساس آمار یونیسف 3.7 میلیون طفل در افغانستان قادر نیستن که به مکتب برن و این مشکل بسیار جدی هست. دلیل دوم برمیگرده به کمبود منابع و تجهیزات و بالاخره مدیریت نادرست این منابع. ساختمان های مکاتب به اندازه کافی وجود نداره حتی در مناطق امن افغانستان، نصاب درسی بروز و با کیفیت نیست و اساتید مسلکی هم ما در افغانستان نداریم. از طرف دیگه منابع زیادی که سرازیر شد در افغانستان به شکل درست مدیریت نشده. متاسفانه فساد مالی که در سالهای گذشته در معارف افغانستان وجود داشته باعث شده که مدیریت را ضعیف بسازه و در این عرصه ما مشکلات زیادتر را داشته باشیم. و نقطه سوم و عامل سوم هم بحث فرهنگی هست. هنوز هم بسواد به عنوان یک امر مردانه و پسرانه در افغانستان دیده میشه و عرف و عنعنات ناپسند باعث شده که دختران را خانواده ها اجازه ندن که به مکاتب برن. و در نهایت اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم میتونیم بگیم که بدون شک معارف زیربنای هر کشور و اساس توسعه و رشد کشور هست، خصوصا کشورهای پس از جنگ و منازعه مثل افغانستان که معارف نسبتا خوبی که ما داریم، وضعیتی که بهتر از نسبت به 18 سال قبل او محصول سرمایه گذاری ها هست در این زمینه با وجودی که درست مدیریت نشده. ولی اگر ما بخواییم که آینده خوبی در افغانستان داشته باشیم، بخواییم که مذاکرات سال به بهترین وجه انجام شود، باید در این زمینه هم توجه شود که سرمایه گذاری درست در قدم اول صورت بگیره و مدیریت درست در این زمینه داشته باشیم تا ای که بتانیم این دستاورد را نه تنها که حفظ بکنیم بلکه از عقب رفت از او جلوگیری بکنیم و پویاتر و بهتر بسازیم. تشکر از توجه شما.
عمیرا جان 2 دقیقه.
عمیرا vous avez 2 minutes.
Ah, c'est le tour du professeur. Donc, je voulais d'abord vous remercier déjà ici être présent et écouter la parole des femmes afghanes. Je veux parler d'un problème important et très sérieux. C'est le problème lié aux produits narcotiques. Les produits narcotiques en Afghanistan est un problème majeur dans notre pays. La culture, le trafic. Génère en soi une conséquence de guerre. Et à côté de cet événement renforce la crainte d'une guerre, ça aussi crée un problème important au niveau social par rapport aux dépendances que cela génère. Et malheureusement, on a donc la guerre augmente, on a aussi 3 millions d'hommes, femmes ou enfants qui sont devenus dépendants. Les produits narcotiques est finalement peut-être même plus dangereux que la guerre. Il y a 3 millions de personnes, imaginez l'impact sur le père, le frère, la sœur, ses enfants, sa femme, donc ça peut toucher 10 personnes. Donc si on multiplie les 3 millions multipliés par 10, nous allons avoir vraiment une société malade. Même si la guerre s'arrête, je peux vous dire que un problème important qui va rester, ce sont les personnes qui sont dépendantes des produits stupéfiants. Une des raisons sont la présence des talibans, car ils sont venus de Pakistan dans notre pays. Et pour pouvoir tourner les engrenages financiers liés pour pouvoir maintenir la guerre, ils ont pris le contrôle de la production de pavots pour l'opium. Ils étaient obligés de s'alimenter et d'avoir les outils, donc les armes, pour pouvoir faire la guerre. Et donc, un des problèmes est cette présence des talibans et de ces cultures dans ces régions. L'autre sujet que je veux aborder, c'est que malheureusement, le gouvernement on peut dire l'État, finalement, n'ont pas réussi aider ou soutenir les agriculteurs chez nous. Donc un agriculteur qui travaille pendant un an sur sa culture pour pouvoir vendre ses produits sur le marché, il a besoin d'une chambre froide pour pouvoir conserver ses produits avant de les vendre. Qu'est-ce qui se passe? Comme cette personne est obligée, l'agriculteur, de vendre son produit en bloc, le produit est perdu et il est donc pourri et inutilisable. Et si un agriculteur veut pouvoir transférer ses produits vers une autre région, il rencontre peut-être une personne, la police sur la voie, qui lui demande de l'argent, des bakchiches pour pouvoir transférer son montant. Donc sur ce chemin, les personnes qui sont dans les villes pour pouvoir surveiller en fait les produits sont taxés aussi de ce. Donc les agriculteurs ne peuvent plus supporter cela. Et cela aussi, du coup, génère une incompréhension par rapport à nos voisins du pays de l'Afghanistan, car quand nos produits doivent être exportés vers les pays voisins, les frontières sont fermées à ce moment-là. Et vous savez qu'il y a 2-3 mois, même la frontière aérienne qui passe entre Pakistan pour arriver en Inde a été fermé pour des raisons sécuritaires. Et au fait, cela n'est pas acceptable pour nous. L'Afghanistan est un des pays qui exporte ses produits fruitiers vers l'Inde. Et aujourd'hui, cela a été stoppé. Donc et contrairement à toutes les lois, cette voie a été fermée. Donc l'agriculteur qui a autant de problème à gérer et toute la production qu'il a eue pendant cette année arrive à être nulle, va s'orienter vers une production plus simple, plus aisée, qui est la production de pavot. Pour produire du pavot a des avantages, déjà dans le premier lieu, c'est le prix élevé, et le point numéro 2, c'est qu'il n'est pas besoin d'irriguer énormément les cultures de pavot, donc peu besoin d'eau. Et en troisième point, il est aisé finalement de commercialiser son produit parce que les acheteurs viennent directement sur les champs pour acheter. Donc la production de l'opium génère 6 milliards de dollars par an, et cela représente l'ensemble des aides internationales que nous obtenons chez nous. Et pour l'agriculteur, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste pas grand-chose. Il lui reste 1 milliard, et le reste sort du territoire afghan. Et comme on nous a dit qu'il y avait très peu de temps, je voudrais juste ajouter ce point-là, et je voulais vous remercier.
Madame Vardak.
Assalamu alaikum.
Bonjour. Bonne soirée. Je voudrais parler des aides faites à l'Afghanistan, dire deux mots. Certes, je ne veux pas critiquer, car la communauté mondiale, internationale, a vraiment été généreuse et a donné cet argent pour l'Afghanistan, pour la reconstruction de l'Afghan. Et le corps à l'agonie de notre pays a pu être revitalisé, ressourcé. Je vous remercie profondément. L'argent qui, après 2001, est acheminé vers l'Afghanistan était 1 trillion de dollars de la part des États-Unis. Et 95 billions de dollars a été pour des aides humanitaires. Mais malheureusement, je dois dire que 900 billions de dollars a servi à financer la guerre, que les Américains eux-mêmes avaient dépensé eux-mêmes ou leur personnel. L'argent donné, affrété par la... c'était 127 billions de dollars de la part des pays européens comme, et puis aussi du Japon, de l'Inde, du Canada et les autres, des pays amis de l'Afghanistan. En ce qui concerne la gestion de cet argent, quand on entend qu'il y a de grosses sommes d'argent qui sont acheminées vers l'Afghanistan, il y a des inquiétudes pour savoir si ça va être bien servi et à des fins efficaces. Je dois dire que l'argent qui était venu en Afghanistan au début a été plus ou moins, on était inquiet à cause, vous savez tous, que la guerre a détruit toutes nos infrastructures, dont notre système de comptabilité aussi a été détruit, et nous n'avions pas dans nos ministères de finances assez d'infrastructures et de comptabilité. Quand nous nous sommes rendus compte de cette lacune, moi j'étais dans le premier parlement de l'Afghanistan, on a demandé à l'État de relancer les capacités du ministère des finances afin de refaire notre système de comptabilité pour voir ces aides, pour pouvoir avoir une idée transparente et claire là-dessus et avoir une comptabilité intelligente. Et que cet argent aide à financer nos projets. Et grâce à l'aide de la communauté internationale, il y a eu un très bon système dans notre ministère de finances a été fondé, qui jusque-là, il travaille ce système et heureusement, Dieu merci, nous avons très peu de problèmes là-dessus. Et la communauté internationale peut avoir l'esprit serein et nous aider encore financièrement. Cet argent a augmenté nos capacités, ça a aidé à reconstruire l'Afghanistan. Car moi, j'ai un bureau dans la région, dans la question de la santé en Afghanistan. En 2001, à chaque minute, on perdait 3 mères au moment des accouchements. Et aujourd'hui, ces statistiques ont changé. Je dois dire que dans notre hôpital, là où je travaille actuellement, qui est dans un des pays, dans une des régions très reculées d'Afghanistan, on a eu que 2 mortalités, 2 femmes en accouchant ont été mortes. Sur 9700 naissances, il y a eu 2 pertes, malheureusement. Et c'était grâce à vos aides. J'ai aussi une très bonne nouvelle, c'est que la France en Afghanistan a un hôpital. D'abord, cet hôpital a été déjà construit en 2001 ou 2002. C'était un centre très moderne pour la pédiatrie en Afghanistan. Et vraiment, nous sommes contents. Et là, on ne peut pas faire des opérations cardiaques. Alors, nous envoyons ces enfants en Allemagne, mais là, maintenant, dans cet hôpital français, il y a de nombreuses opérations, interventions cardiaques en Afghanistan sur les enfants. Et nous vous remercions sincèrement. Et monsieur l'ambassadeur nous a promis que ce sera fait le centre hospitalier le plus moderne dans la région. Et j'espère qu'il ne va pas oublier.
Et
qu'il continue les aides. Alors, je vous prie d'aller à votre place, s'il vous plaît. Et
de tous les acquis, après on a parlé depuis tout ce qui est arrivé depuis 2014. Et là, on va parler de l'avenir. De l'avenir et puis le processus de paix. Ouais. Pour cela, j'invite Madame la ministre, Madame Farideh Momane, Madame la députée Shahkor Rezaei, Madame députée Massoudeh Karouchi,
Et enfin, parfait. Madame Palwaja Hassan. خانم ها هر کدومتون فقط دو دقیقه فرصت دارید.
Vous avez deux minutes chacune.
از خانم پرواشا حسن.
Nous demandons à madame Parwaja Hassan de commencer. Au sujet de la situation actuelle du processus de la paix, le processus politique qui comprend également les élections. Et nous vous prions que chacune parle de sa position. Bonne soirée. Je vous remercie d'être de me laisser parler au sujet du processus de la paix en Afghanistan, qui est une question très importante de notre point de vue en tant que femme. Et je crois que c'est une bonne situation, une bonne occasion à l'Afghanistan pour parler quand même de la paix, pour avoir des négociations. Mais cette occasion, dans cette conjoncture, nous méfions aussi, nous empêche d'être très optimistes au sujet des résultats de ce processus de paix, car il y a des défis devant le processus de la paix, par exemple. Je veux vous en parler de quelques points. C'est l'absence d'un rassemblement, d'un consensus parmi tous les Afghans au sujet du processus de la paix, et aussi les raisons qui existent qui nous empêchent d'avoir ce rassemblement d'idées, et aussi pourquoi les femmes aussi ne sont pas, sont exclues de ces pourparlers, de ce processus, malgré les acquis que les femmes ont eus durant ces années. Je voudrais vous parler de ces sujets-là. Et il faut que les femmes doivent regagner les acquis qu'ils ont eus, car l'Afghanistan est un pays où la démocratie avait eu de la démocratie avant les dizaines de la guerre et peut-être avant beaucoup de pays européens. Les femmes ont eu le droit de vote avant même de certains pays européens. Malheureusement, nous n'avons même pas maintenant les mêmes droits que nos mères avaient et que nous allons être privés de ces droits. Alors, pourquoi il n'y a pas un consensus politique en Afghanistan? Il faut dire que l'élection présidentielle en Afghanistan, qui se déroule actuellement en Afghanistan, malgré les rivalités entre les différents candidats et les différents groupes ethniques, il y a des rivalités ethniques, des groupes politiques parmi les différents groupes afghans. Donc, ils n'ont pas pu arriver à cette maturité politique pour arriver à un consensus général, pour avoir une même voix, pour se réunir, pour participer à ces processus, à ces négociations. Alors, pour représenter vraiment à juste titre le peuple afghan en défendant les intérêts des intérêts nationaux et du peuple afghan et respecter les droits des citoyens afghans. Et aussi, il y a des raisons internationales, car le processus de la paix est géré par les États-Unis d'Amérique et ils sont pressés pour sortir de l'Afghanistan leurs hommes, leurs militaires. Et donc, ils savent très bien qu'ils risquent un danger pour faire évanouir tous les acquis que le peuple afghan a gagnés durant ces années, qu'ils les menacent. D'autre part, Nous, les femmes afghanes, depuis des années, nous avons combattu, nous nous sommes réunies pour, et nous savons que la solution ne consiste pas en la guerre. Il faut absolument que la paix arrive et les négociations nous amènent la paix. Alors, quand les Américains sont entrés en Afghanistan, les femmes afghanes on fait des lobbies pour faire régler la question afghane par les voies de la paix et par les voies de négociation. Et aujourd'hui aussi, on veut faire venir la paix, faire instaurer la paix grâce à des négociations. Et nous voulons que les femmes afghanes soient présentes autour de la table des négociations pour faire respecter leurs lois et défendre leurs droits pour que ça ne soit pas une monnaie de change pour la paix en Afghanistan, pour qu'on ne joue pas sur le droit des femmes. Alors, il faut absolument vraiment défendre les droits des femmes et qu'ils ne soient pas tenus en considération et qu'on ne joue pas là-dessus. J'espère bien que grâce à l'aide et au soutien de la communauté internationale, nous pourrions avoir une bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a quelques instants, avec le comité international de parlement, on en a parlé. Et la dame, la présidente, nous a annoncé la bonne nouvelle que le Parlement français va nous soutenir et va nous protéger dans le processus de la paix.
در افغانستان بعد از سقوط طالبا واقعا وقتی که جامعه جهانی در اینجا آمد و یک در کنفرانس بان و بعد اولین تشکیل نظام سیاسی همون وقت و زمان یکی از اهداف و آرمان بزرگ کنفرانس بان و جامعه جهانی ای بودک که در افغانستان دموکراسی تحقق بپذیره، حاکمیت قانون مستقر بشه و رعایت حقوق بشری بشه و اعاده عموم حقوق زنان و اقشار مظلوم و آسیب پذیر. اما در همون وقت زمان جامعه جهانی اون شناخت همه جانبر نی از بود جامعه شناسی افغانستان داشت و نی هم از لحاظ بافتای اجتماعی و کمک های زیادی در اینجا سرازیر شد و کمال تاسف نشد، مدیریت نشد، چیزی که ضعف بود، چون در کنفرانس بون بیرون از اراده های افغانستان نظام شکل گرفت که یک نفر از اونا نه حکومتداری کرده بودم و نی هم به امورات حکومتداری می فهمیدم. و زمانی که ما اولین دولت موقت و بعد از او انتقالی و بعد از او قانون اساسی و بالاخره به حکومت انتخابی رفتیم، ما مردم افغانستان 2019 یکی از بهترین دورنماهای ما داشتیم که افغانستان در 2019 واقعا به طرف و به سمت میره که کاملا یک کشور خودکفا با رعایت حقوق بشری، حاکمیت قانون، توسعه، پیشرفت. اما امروز ما کار به جایی رسیده که جامعه جهانی به رهبری امریکا میخواهم که به حساب همو برنامه هایی که داشتم برنامه خور تجدید نظر کنم یا نتیجه درستی نداده. و فعلا کار به جایی رسیده کسانی که به زور تیارهای B-52 از افغانستان بیرون کشیده شد، امروز خود ایالات متحده امریکا حاضر میشه که سر با پشت یک میز سر میز مذاکره بنشینه. و مشکلی که در افغانستان هست و متاسفانه با هم ابزار و قدرتی که حکومت داره امروز و یکی از ابزار ازی تدویر لوی جرگه هست که لوی جرگه اولیترین مظهر اراده های مردم افغانستان است، چنانچه در 2010 لویا جرگه ملی مشورتی صلح برگزار شد و برای اولین دفعه شورای عالی صلح تشکیل شد. اما در عوضی که از اینجا اشخاصی که به عنوان واسطه و میانجی کسانی برم که محبوب قلوب مردم باشم، شخصیت های متنفذ باشم، کسانی باشم که به فکر و منافع کشور خوب و مردم خوب باشم، همین کسانی که در طی 40 سال داخل جنگ ها بودم و مصیبت به افغانستان خلق کردم، همونا در رده های ردای اونجا قرار گرفت و یک جو بی‌اعتمادی بین مردم به وجود آمد. فاصله ها ایجاد شد بین حکومت و جامعه جهانی هم نتونست که کنترل کنه، طوری که یک خواهر ما از کمک هایی که شده و بالاخره حال کار به جایی رسیده که مسئله افغانستان به حساسترین نقطه رسیده که همه عاجز شدم و زنا تشویش دارم که مبادا ما قربانی شیم، مردم تشویش داره که همه قربانی شم و جامعه جهانی تشویش داره که این همه کمک هایی که در اینجا شده نتایج چی در قبال داشت. و بناهن این شرایط شرایطی است که یک کشوری که مثل افغانستان، یک کشور جنگ زده و مشکلات زیادی داره، تنها نمیتونه از آدرس ملی و به تنهایی با این همه مشکلات فارغ بیایه. این زمانی است که تعهد جامعه جهانی میطلبه که مردم افغانستان، همونطوری که در کنفرانس بن اول همکاری و همیاری کردم، دست به دست ما بدم و با یک بهترین طرح و پالیسی و یک راهکار همه جانبه ای که تشویش و نگرانی های همه ما رو بتونه رفع کنه، به میدان بیاییم و بتونیم از این آزمون خطرناک و دوره گذر بگذریم و به همون صلح و ثبات دائمی که ارمان و اهداف بزرگ کنفرانس بن بود برسیم. تشکر.
تشکر از شما. از دکتر فریده مومند تقاضا میکنیم که نظرات خود بگه.
Nous remercions Farideh Momand.
شام شما بخیر. تشکر میکنم از حضور پررنگ همه شما. حضور شما نمایانگر تعهدتان به دوستی 97 ساله افغانستان و فرانسه است. و اما پیامدهای جنگ 40 ساله در افغانستان. همه ما می دانیم که جنگ 40 ساله افغانستان پیامدهای بسیار شومی را برای مردم افغانستان به یادگار گذاشته. قربانی های بشمار مردم افغانستان، آواره شدن میلیونی مردم، تخریب زیرساخت ها، از بین رفتن سیستم ها و ده ها مشکل و مصیبت دیگر. بنابراین مردم افغانستان بی صبرانه منتظر با آغوش کشیدن صلح و امنیت هستند. اما کدام صلحی؟ صلح به چه قیمت و چگونه؟ متاسفانه هنوز مذاکرات صلح برای ما افغان‌ها مبهم است. تا حال 6 دور مذاکراتی که در قطر با امریکایی‌ها و طالبان با هم داشتن و یا سیاسیون، یک عده سیاسیون افغانستان در مسکو دوبار گرد هم آمدن، متاسفانه مستحقین اصلی دانستن این مذاکرات که مردم افغانستان هستند از او بیخبر ماندن و حتی حکومت افغانستان نمیدونه که مذاکراتی که داره بین طالبان و امریکایی‌ها جریان داره چی پیامد روشن برای مردم افغانستان داره. بنابراین مخصوصا زنان و جوانان افغانستان که دو اکثریت عددی مهمی را در افغانستان تشکیل میتن و در طی 18 سال گذشته هر دوی قشر به دستاوردهای ملموس و محسوس دست یافتن، متاسفانه از نتیجه مذاکرات بی خبر هستند و همه ما میدانیم که زنان قربانی های اصلی جنگ در افغانستان هستند و نه عامل جنگ، اما متاسفانه هنوز در حاشیه گذاشته شدند و در حالی از ابهام قرار دارند. ما می دانیم که قطع جنگ به معنای صلح نیست، بلکه نظم سیاسی، ثبات اجتماعی و حقوق شهروندی است که می تانم ما را به یک صلح پایدار رهنمایی کنم. تجربه نشان داده که صلحی که عجولانه در کشورها منعقد شده به جنگ های خطرناکتری در آینده منجر شده. ما می دانیم که کمک های سخاوتمندانه و قربانی هایی که جامعه جهانی را برای مردم افغانستان کردن ازشان سپاسگزار هستیم و اما ای را هم به یاد داریم که این قربانی ها را مردم افغانستان هم با قربانی های ممتد و پیهم خود پاسداری کردند. دستاوردهای 18 سال گذشته از جمله تدوین قانون اساسی، تدویر چندین بار انتخابات و دستاوردهای ملموس و محسوس زنان و جوانان نباید قربانی معامله های سیاسی پشت پرده شود. زیرا مردم افغانستان به خصوص زنان و جوانان افغانستان مردمان طی 18 سال گذشته بسیار دستاوردهای مهمی داشتند و افغانستان امروز افغانستان 18 سال گذشته نیست. بنابراین مذاکرات صلح باید با دقت همه شمول بودن، فراگیر بودن و همه جانبه بودن نظریات همه افغانها برگزار شود تا ما بتونیم به یک پروسه صلح پایدار و قابل قبول برای همه افغانها او را تبدیل بکنیم. تشکر از توجهتون.
تشکر از شما و بالاخره در این پنل از خانم شاگل رضایی.
Alors nous invitons madame Shagol Rezaei de parler.
خدا نخست از همه یاد و خاطره تک تک از سربازان را که در افغانستان از نقاط مختلف جهان، از سرتاسر فرانسه، از کشورهای مختلفی که در جهان همکار افغانستان بودند و تک تک سربازان افغانستان که دوشا دوش هم تانستن که دستاوردهای 18 سال گذشته افغانستان را رقم بزنن گرامی می‌داریم. افغانستان و دموکراسی نوپا در افغانستان فعلا در مرحله حساس و سرنوشت ساز قرار داره. هم جهان و هم افغانستان هر دو ما به این باور هستیم که امسال سال سرنوشت ساز را به پیش رو داریم، چون دو بحث مهم را در افغانستان در سال جاری در پیش رو خواهیم داشت. بحث اول بحث انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که اگر مدیریت درست صورت بگیرد می تواند در راستای تقویت دموکراسی در افغانستان کمک کند و اگر مدیریت درست صورت نگیرد می تواند بحران جدید را در افغانستان به وجود بیاورد. بحث اساسی دوم را که در سال جاری پیش رو داریم بحث روند صلح در افغانستان. روند صلح هم در افغانستان اگر با مدیریت درست به پیش برود ممکنه ما امیدهای را از این روند داشته باشیم. اگر مدیریت دقیق صورت نگیرد ممکن است خطرات و نگرانی های را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی به بار بیاورد. آنچه را که ما از روند صلح در افغانستان امیدوار هستیم به او این است که ختم جنگ، روند صلح در افغانستان منجر به ختم جنگ، قطع حملات تروریستی در افغانستان و ختم انسانکشی در این مملکت گردد. و ما امیدوار به این هستیم که روند صلح در افغانستان به وجود آورنده یک ثبات پایدار در این کشور گردد که ایره به عنوان یکی از آرزوهای دیرین افغانستان میدانیم. اما چیزی را که به عنوان نگرانی همزمان با امیدواری هایی که داریم به عنوان نگرانی مطرح میسازیم، حداقل 4 عرصه نگرانی را در روند صلح افغانستان ما پیش بین باید باشیم. بحث اول بحث محدودیت بر حضور و مشارکت زنانه. زنان افغانستان همزمان با اینکه به صلح نیازمند هستند به عدالت نیازمند هستند. این عادلانه نخواهد بود که در افغانستان صلح به وجود بیاید که پیامد این صلح خانه نشین ساختن زنان افغانستان و به قربانی گرفتن حضور و مشارکت زنان افغانستان باشد. نقطه دوم نگرانی از روند صلح این است که آسیب پذیری را ممکنه در بحث حقوق شهروندی داشته باشد. ما در جریان حکومت طالبان شاهد بودیم که فجایع بسیار زیادی در افغانستان اتفاق افتاد. آیا روند صلح افغانستان دوباره تکرار فاجعه های گذشته خواهد بود و یا اینکه نهادی نشدن حقوق شهروندی در افغانستان؟ اینها سوالی است که در بحث صلح در افغانستان باید با دقت توجه داشته باشیم. نقطه سوم زیر سوال قرار گرفتن دستاوردهای 18 سال گذشته افغانستان. ما در 18 سال گذشته همچنان که به صلح ضرورت داریم ارزش های نوینی را در افغانستان اساس گذاری کردیم در 18 سال گذشته. این ارزش های نوین به میزان که صلح برای ما مهم است، ارزش های نوین توسعه دموکراسی، حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشتشان برای ما همچنان مهم است و آزادی های اساسی که برای شهروندان در نظر گرفته شده. نقطه چهارم نگرانی و آخرین نقطه است که ما می ترسیم که یک بار دیگر روند صلح تحت عنوان روند صلح رشد افراطیت و همچنین سازمان ها و شبکه های تروریستی که در گذشته در افغانستان جای پا باز کرده بودند به کمک کشورهایی که شما می فهمین تمویل کنندگان شبکه های تروریستی است، یک بار دیگر این فضا فراهم شوه و امنیت جهانی را به مخاطره بیاندازه. در نتیجه با همه امیدواری ها و نگرانی هایی که از روند صلح افغانستان داریم ما به این باور هستیم که افغانستان و جهان یک بار دیگر در یک آزمون بزرگ قرار گرفته است و این آزمون طور است که ما می خواهیم و خیلی برای ما مهم است که پایان جنگ در افغانستان هم برای جهان و هم برای افغانستان پایان موفقیت آمیز و مسئولانه باشد. ما خواهان پایان مسئولیت آمیز، مسئولانه و موفقیت آمیز جنگ افغانستان هستیم و این زمان امکان خواهد داشت که هم صلح را داشته باشیم، هم ارزش های نوین دموکراسی، حفظ دستاوردها و در حقیقت تداوم دموکراسی را به عنوان ارزش های نوین پاس بداریم. در نتیجه ما از جنگ خسته ایم و شماها هر کدام و تمامی جهان از جنگ خسته است، اما خستگی از جنگ نباید به معنای به قربانی گرفتن دستاوردهایی باشد که نتیجه قربانی های مشترک ما و شماست. تشکر.
از دوستان عزیز یک جان ممنون، تشکر. از پنل چهارم تقاضا میکنیم.
Alors, très rapidement, on s'est dit qu'on vous doit de savoir qu'est-ce qui s'est passé ces quatre jours très rapidement et que ces dames vont partir en Afghanistan s'engageant à. Pour dire que ce sont des actions où il y a une sorte d'accountabilité, même s'il va y avoir un rapport quand on va le transmettre à monsieur l'ambassadeur, et vous allez être en copie aujourd'hui, de voir comment les femmes se sont engagées très rapidement sur leur plan d'action. Donc chacune des femmes, parce qu'il y a eu trois actions, viendront vous expliquer une minute sur quoi elles se sont engagées de travailler. Pour ça, je vais inviter madame Marie Akrami, madame Farahnaz Furutan et Anarkalia Homera.
گروه اولین گروه اولین گروه je vous remercie. Je vous remercie, je vais être très succincte durant ce voyage. On a profité, c'était très instructif. Malgré le peu de temps qu'on avait, c'était très serré. Nous avons bien appris. Nous avons appris comment on va aller travailler en Afghanistan. Ce qui est très important pour les femmes afghanes et le peuple afghan, c'est le rassemblement, le consensus national politique en Afghanistan. Malheureusement, les Afghans ont beaucoup de divergences de vues et c'est l'origine de nos problèmes. Et nous espérons que nous tiendrons au courant. On espère bien que l'ambassade de France nous aidera aussi. C'est le problème de les campagnes, l'organisation des campagnes à part les femmes, pour les femmes, et juste lancer des campagnes pour les femmes. Et nous avons appris comment on peut organiser des campagnes pour pouvoir transmettre les messages très précis qu'on a appris aujourd'hui dans le Parlement français, et on va témoigner de l'évolution du progrès de la France, que les Français ont préféré les intérêts nationaux aux intérêts individuels. Malheureusement, c'est le contraire en Afghanistan, et l'un des malheurs, c'est qu'ils préfèrent leurs intérêts individuels. Alors les femmes afghanes pourront faire valoir cette idée en parlant aux responsables du pays, et que les femmes n'avaient pas de rôle à jouer dans la guerre, mais qui veulent bien montrer comment il faut primer les intérêts nationaux aux intérêts individuels. Et j'ai beaucoup de choses à dire, mais bon, pour le moment, je me contente de ce que j'ai à dire.
Bonjour, bonne soirée, messieurs, dames. Le programme que nous avons eu, le programme chargé que nous avons eu ces quatre jours, avec Tina et Robia et aussi l'ensemble des parties prenantes. C'était un programme qui a permis de notre autonomie et pouvoir faire un focus sur les sujets qu'on a travaillés. Donc avec mes collègues, nous avons choisi de travailler sur un sujet qui concerne l'égalité entre les sexes. C'est un sujet, quand je parle de égalité des sexes dans le domaine du travail. Et cela donc impacte sur des discussions sur pour que les femmes aussi puissent participer dans le processus de paix. Et nous considérons que les inégalités existent et nous le constatons car aujourd'hui les femmes ne sont pas présentes ou alors elles sont présentes mais pas de manière forcément formelle ou active et cette présence aujourd'hui est là et nous voudrons participer le plus possible dans ces négociations et avec les informations, les expériences qu'on a pu acquérir ces derniers jours, c'est finalement une culture orientée plutôt vers l'homme, hein. Donc et cela génère une inégalité envers les femmes. Et le troisième point, c'est le milieu du travail, au milieu du travail, la femme comme une femme jolie, bien habillée, comme une personne qui soit présentable au lieu d'une personne qui puisse bien parler ou bien réfléchir. Nous, les femmes afghanes, à chaque instant, dès qu'on sort de la maison et jusqu'à notre retour dans la maison, et même parfois dans les maisons, on lutte contre cette inégalité. Mais plus précisément, ce qu'on peut écrire sur le papier, c'est que ces inégalités, dans un cadre précis, dans le cadre par exemple de la presse ou du gouvernemental, dans le cadre international, on peut étudier cette situation-là et en fonction de la situation pouvoir faire des conclusions sur ces sujets. J'étais contente de pouvoir être là, de discuter avec vous, d'être présente et merci de votre accueil de l'ensemble des Parisiens. Merci.
Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, bonne soirée. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Et nous, je crois qu'on vous fatigue avec ma voix qui est malade. J'ai attrapé froid. Moi aussi, à mon tour, je remercie Madame Fahima et Tina Roubioul qui nous ont préparé cette occasion. Et nous avons acquis des compétences pour pouvoir participer et lutter pour être présente dans les processus de paix. Nous avons appris comment il fallait œuvrer techniquement pour à cette fin. Le problème que je souligne, c'est l'éducation en Afghanistan. La constitution afghane a mis vraiment en relief et a rendu gratuite et obligatoire le primaire, le collège et le lycée. Et on avait déjà dit que sous les talibans, ces écoles de filles ont été fermées et on les a réouvertes après les talibans. Les filles ont fréquenté les écoles et le grand défi qui existe dans les endroits, dans les régions lointaines du pays, c'est que les talibans ont incendié ces écoles et pour nous, c'est un crime de guerre parce que les filles ont été privées de continuer leurs études parce que leur école était brûlée et les écoles pour garçons aussi ont été brûlées. De toute façon, ce que nous avons prévu, c'est que l'éducation est une des infrastructures de notre pays. et nous avons travaillé sur des plans court terme et long terme pour remettre en... Et nous avons travaillé avec notre ministère de l'Éducation nationale. Nous allons coopérer avec eux et on va créer différents groupes pour participer aux négociations de paix. Et nous aussi, nous voulons lancer un mouvement pour pouvoir participer aux négociations de paix et pouvoir participer dans les secteurs où nous pouvons collaborer et même entrer en négociation et discuter avec l'opposition et pour dire et ceux qui sont contre, opposés à la paix, et on va leur demander de ne pas priver les enfants et les filles afghans de l'éducation. Nous remercions tous les Français qui, avec leurs taxes, avec leurs impôts, ont aidé les Afghans et nous espérons continuer ces coopérations.
Oui, à Madame la députée, qu'on va quitter la salle à 20h30, donc on prendra dans la foulée des questions. Et je laisse Tina. Pardon? On ne peut pas prendre des questions? Quelques questions. Quelques questions. Deux questions, Tina. Questions? Une question. Et s'il vous plaît, posez la question. Ah, deux questions. Rapidement. Okay.
Maybe you should raise it. They can hear you.
Tina,
oh, there's a microphone there.
Tina, tu peux traduire?
Et aussi ici.
Okay. Yes, I will speak in English. Sorry. So, my name is Wasim Abi Rafi. I'm General Secretary of Southwest Asia and North Africa, Arabophone. When we were sitting here, we were speaking with the ambassador and the minister, and I asked a question. Really, I have one question, and I have one sentence for the Afghanistan woman. The question is, what do you think, Mr. Ambassador, about the negotiation between United States Administrative America in America and of America and the Taliban organization in Qatar? And do you think United States has the right to make negotiation with some or many people, or some organization in Afghanistan, or this is the role of, that we say, or that we know, of the government that is coming by election and with the democracy, type of democracy in Afghanistan? This is my question. And my message for the Afghanistan's woman, I don't think the problem is that the woman or that the girls are not going to school. The problem is the mentality of the society and the opinion of the woman in everything, even in Al-Islam. Is the woman in Afghanistan has her opinion about Al-Islam and in Al-Islam? And when you're speaking about Al-Islam, this is something very important, because what do we know from my reader? The truth al-Islam is not al-Islam al-Takfiri or al-Usuli or something. So the truth of al-Islam is something different. We know, we want to say that the woman must have the opinion on al-Islam, about al-Hijab, about the role of woman. That's it. Thank you very much.
Je m'en...
تشکر.
Je vous remercie. Je voulais dire. Alors là. On a traduit en persan. La question posée par ce monsieur, c'est de vouloir nous demander notre avis sur le processus de la paix en Afghanistan, suivant les dialogues entre les talibans quel est notre avis, opinion là-dessus entre les talibans et les États-Unis. Est-ce que dans cette réunion, est-ce qu'il y a un autre but? Pourquoi il n'y a pas assez de transparence sur nos opinions? Et pourquoi on n'a pas discuté de toutes les questions, et quel est le rôle de l'État d'Afghanistan dans ces négociations, et en sachant que les talibans, est-ce que ce sont un groupe terroriste, et quelles sont les différentes opinions qui existent là-dessus? C'était la question. Je vous remercie vraiment. Nous allons dire que l'Afghanistan est un pays musulman où les gens croient à l'islam. Et vu la constitution afghane, c'est la religion officielle. Mais aujourd'hui, nous sommes d'un Afghanistan où, dans les pires conditions, on n'a pas eu l'occasion de venir dans les pays développés comme en Europe et en Amérique. Nous sommes élevés dans des maisons fermées, dans un pays fermé, enfermés dans les traditions de la société. Mais nous avons su faire nos études. À Irmand, à Badakhshan, les filles font des études, veulent faire des études. La question est très importante, l'éducation des filles. Ce qui menace, ce n'est pas l'islam, c'est la guerre et l'insécurité. C'est la guerre et l'insécurité qui menacent les familles, qui leur fait peur pour laisser partir leurs filles. Nulle part en islam, il n'est écrit de ne pas donner la permission des études aux filles. Bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est pas l'image fanatique des groupes fanatiques en Afghanistan. Malheureusement, c'est cette exégèse erronée qui est en vogue en Afghanistan, et ça a préparé le terrain à ce que les filles soient privées de l'école et de l'éducation. Moi, en forme générale, dans les familles, au sein des familles afghanes, c'est aujourd'hui, on fête le centenaire de l'indépendance d'Afghanistan. Il y a 100 ans, en Afghanistan, on avait les premières écoles pour filles. Bien, quoique ça avait ses problèmes à l'époque aussi, mais vivre 100 ans, c'est très important. Ça a bien montré, ça a prouvé aux Afghans que vu au point de vue culturel, ils donnent une grande importance à l'éducation, et leur point de vue, c'est ils considèrent ça comme un droit élémentaire de tout individu pour faire des études.
من دیگه باز ترجمه را کسی دیگه بکنه. You sure? Okay. بسیار خوب.
Okay. Je vais parler en dari. Je ne vais pas détailler cette question très complexe et trop compliquée. Il y a plusieurs vérités. Première vérité, c'est qu'en 2017, les États-Unis ont décidé une politique qui s'appelle la politique du sud de l'Asie, et ils voulaient Et là, il était une pression pour que trouver aussi bien une solution dans le champ de la guerre et aussi mettre des pressions sur le Pakistan et aussi d'autres pays de la région pour aider la résolution du problème afghan. C'était à mi-chemin que les États-Unis ont changé un peu de politique et ils ont déclaré que M. Trump a déclaré que nous voulons terminer la guerre en Afghanistan et je veux sortir mes troupes. Et tant mieux, plus tôt, c'est mieux. Et c'est alors qu'il veut continuer ce processus. Et il a entamé un dialogue entre les talibans et les États-Unis. Ça fait moins d'un an que ces rencontres ont eu lieu, se poursuivent et que la septième étape aura lieu dans quelques jours à Doha. Jusque-là, aucun accord n'est acquis, mais il y a eu des changements en Afghanistan. D'abord, malheureusement, en Afghanistan, une grande partie du sol afghan et de passer sous le contrôle des talibans. La guerre a eu beaucoup, beaucoup de victimes et de morts. On a dit que 75 000 Afghans ont été tués en Afghanistan, avec 50 000 soldats militaires, des militaires d'Afghanistan. Donc, il y a aussi d'autres personnes, d'autres étrangers aussi ont été morts. Maintenant, je n'ai pas les chiffres des étrangers, mais bon, il y a eu ça. D'autre part, il y a que le peuple afghan, en général, dans sa totalité, réclame la paix. Ça fait 4 ans, 40 ans qu'on est en guerre. Et on a passé plusieurs étapes et des millions ont été expatriés, délogés, émigrés. Et il y a des millions de personnes qui sont mortes. Il faut absolument terminer la guerre. Le processus actuel de la paix, c'est pas uniquement la question des talibans. C'est la question qu'il faut mettre un terme définitif et pérenne dans tout ce processus et qu'il faut trouver une paix pérenne en Afghanistan à la condition que ce soit accepté par la majorité des Afghans. Aussi bien des femmes afghanes et afghanes que des hommes afghans, toutes les ethnies, tout le monde. Tous les citoyens ressortissants afghans doivent participer de n'importe quelle façon à ce processus et que leur voix doit être entendue. Donc leur voix et leur décision doivent être répercutées sur le processus de la paix. Vous avez vu que ça fait 18-17 ans qu'on a eu beaucoup d'acquis et que ces acquis ne doivent pas être aucunement perdus et renoncer à ces acquis, c'est la démocratie ou c'est l'État, le gouvernement de loi, soit les droits des femmes, soit les droits à l'éducation ou bien les droits à l'expression, à la liberté d'expression. Ce sont des droits que le peuple afghan auxquels il ne va pas renoncer. Et tout cela doit être abordé dans le processus de la paix. Et qui va aborder ces questions? C'est là où la question se pose. Nous avons dit qu'il faut avoir un consensus. Nous espérons que nos amis qui vont aller en Afghanistan doivent travailler là-dessus. C'est pas une personne ou bien une ethnie ou bien un groupe ou bien un parti politique. Ce doit être un consensus national parce que la guerre, c'est une guerre générale. Et la guerre a trouvé des dimensions malheureusement régionales. Donc, tout le monde doit être dans ce consensus, dans cette réunion, et tous les pays de notre région doivent, comme à Bonn en 2001, on sont arrivés à un accord relatif. Maintenant aussi, ils doivent arriver à un accord. Et notre peuple doit être aidé par les groupes politiques qui devraient avoir un rôle important dans notre État. Et comment ce consensus sera acquis en Afghanistan et nous espérons que cela arrive à une conclusion. Après, il est question des discussions entre les Afghans. Mais pour le moment, c'est les Afghans et les Américains, et les Talibans et les Américains qui sont en train d'établir leur grille, de le calendrier de la sortie des Américains et quelles responsabilités auront les Talibans vis-à-vis du terrorisme. On ne peut pas distinguer cette question des autres questions de l'avenir politique de l'Afghanistan. Nous ne pouvons pas du cessez-le-feu. Tout ça, ce sont des questions qui réunissent. Et tous les Afghans doivent voir eux-mêmes dans cette décision. Alors, sans tout ça, il n'y aura pas d'une résolution finale et à l'aide de Dieu et à l'aide des Afghans, de tout un chacun, et la participation des Afghans et de la communauté internationale, il faut que cette guerre soit terminée. J'arrête là et je laisse Madame à parler.
Vraiment désolée, parce que nous devons conclure, et ce qui est compliqué, c'est qu'il aurait peut-être fallu une heure de plus pour des questions-réponses. Mais en tout cas, merci d'avoir posé cette question. Donc, moi, je vais essayer de faire vite et surtout d'être un peu concret, puisqu'il faut effectivement déboucher sur un petit peu sur du concret. D'abord, ce qui a vraiment été dit plusieurs fois ce matin, réitéré ce soir, encore ici, c'est le fait de ne pas vouloir sacrifier effectivement la démocratie à la conclusion de la paix et de ne pas associer les Afghans, les Afghanes et les Afghans à ce processus de paix. Ce qui est aussi reconnu depuis longtemps, c'est que la paix, ça se construit souvent, effectivement, grâce aux femmes. Ce n'est pas qu'en Afghanistan. Les processus de paix ont souvent été mis en place grâce aux femmes, grâce au réseau de femmes, beaucoup en Afrique, par exemple, ou de réconciliation, la paix ou la réconciliation souvent à travers les femmes. C'est pour ça que nous allons soutenir, nous, une initiative. Mais avant de la décrire, je voulais vous dire pourquoi. C'est que nous pensons que les femmes doivent absolument être autour de la table de négociation. Ce n'est pas pour dire ce qu'elles doivent faire ou ce que les Afghans doivent décider. Mais le simple fait que les femmes soient autour de la table de négociation garantit, je le pense, le fait qu'effectivement la paix puisse se construire et qu'elles sont aussi la garantie que derrière les droits, la démocratie, effectivement tous ces acquis, c'est le cri effectivement qui a été lancé depuis ce matin, soit là. Donc pour nous, la présence des femmes autour de la table, c'est la garantie de pouvoir construire la paix et que la démocratie ne soit pas sacrifiée au nom de la paix. Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est que ce que le réseau de femmes nous a décrit, c'est qu'elles avaient fait ce travail-là aux États-Unis, de travailler avec le Parlement américain, en tout cas le Congrès, et elles ont obtenu un courrier de, je crois, 76, je ne sais plus si c'est le chiffre exact, congressmen américains qui ont effectivement soutenu cette démarche. Donc je pense que la première chose à faire, c'est que le Parlement français le fasse également, que ce soit les députés et les sénateurs. Donc nous allons nous y employer. Ça paraît une petite chose, mais c'est quelque chose d'important d'obtenir effectivement les signatures de beaucoup de députés et de beaucoup de sénateurs. Je vais également proposer à la Commission des affaires européennes, qui est une commission également à l'Assemblée, je vais proposer à cette Commission des affaires européennes éventuellement de faire une résolution. Et ensuite, avec cette résolution, de proposer cela à d'autres parlements nationaux dans d'autres pays européens. Parce que c'est vrai que s'il y a un réseau de parlementaires européens qui appuient cette démarche, non pas de dire ce que les Afghans doivent faire, mais de demander que les femmes participent au processus de paix, peut-être qu'effectivement, bon, voilà, ça sera quelque chose de levier pour le futur. Et nous ferons bien sûr cela en liaison avec notre ambassadeur qui est attaché aussi à ce processus et donc démultiplier nos actions. Et je sais également que Tina Robiol, même si c'est une initiative qui n'est pas encore discutée ni acceptée, mais elle a rejoint l'École des affaires internationales de Sciences Po et elle veut, à l'intérieur de l'école, aussi développer un programme pour développer le réseau, votre réseau, de le faire à part, le réseau de femmes à partir de l'Afghanistan, mais également dans d'autres pays. Donc, bon, voilà, c'est une proposition qu'elle fait. Je ne sais pas où est Tina, d'ailleurs. Ah, Tina, voilà. Donc, je dis bien que c'est une proposition. Elle n'est pas encore acceptée, mais voilà. Donc, si on fait une addition d'initiatives qui se rejoignent pour faire levier, peut-être... qu'on pourra faire un pas dans le sens que vous le souhaitez. Et je vais laisser la parole à monsieur l'ambassadeur.
Merci beaucoup, Frédéric, madame la vice-présidente. Moi, je vais être très, très bref.
Man.
Robiol, Anne Duruflé, pour l'organisation de ce beau programme. Et moi, j'aurais peut-être juste deux messages politiques à faire passer. D'abord, ça a été dit assez souvent par nos invités, vos invités, cet attachement à la Constitution que tu viens d'évoquer à nouveau, il ne faut pas transiger là-dessus. C'est votre butin de guerre. La Constitution, la démocratie, les élections, vos droits, c'est votre butin de guerre. Ne lâchez rien là-dessus dans la négociation qui vous appartiendra. Et deuxièmement, la conséquence de ça, c'est que il est de notre responsabilité à tous, mais en particulier à vous, les Afghans et les Afghanes, de faire en sorte que le peuple afghan ait droit à une belle élection présidentielle. Une belle élection présidentielle, ça veut dire une belle campagne électorale où les candidats peuvent aller dans tout le pays, faire campagne, débattre, échanger, confronter leurs idées. Il faut qu'ils puissent le faire en toute sécurité. Il faut que chaque élu local, chaque leader ne fasse l'objet d'aucune intimidation, qu'ils puissent prendre position les uns et les autres pour tel ou tel candidat, et que ça soit fluide. Et que le jour du vote, les jours des votes, premier, deuxième tour, il n'y ait pas de fraude. C'est très important, parce que si le prochain président de la République islamique d'Afghanistan est élu sur la base d'une élection un peu truquée, mal faite, mal organisée, alors sa force sera extrêmement limitée. Ce sera un président faible, qui sera faible dans la négociation face aux talibans, qui auront beau jeu de dire « Ouais, vous défendez la Constitution, mais enfin, votre Constitution, là, ça donne des élections frauduleuses et un président auquel nous ne croyons pas. » Il faut absolument éviter ce piège. C'est vital pour la suite des négociations et c'est vital pour la vie démocratique afghane. Et c'est votre responsabilité et c'est notre responsabilité aussi de le dire, même si cette élection vous appartient. Et puis dernière chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais vous féliciter, vous qui revenez régulièrement au séminaire organisé par le groupe d'amitié France-Afghanistan. Je suis venu ici juste avant de partir, je reviens quelques mois après, vous êtes encore là, ce qui veut dire, et je le dis à nos invités afghanes, vous pouvez voir qu'en France, il y a des gens qui sont passionnés par votre pays, il y a des parlementaires qui s'intéressent au destin de votre pays, et que tout ça, c'est un très grand encouragement pour vous et pour nous. Voilà. Merci encore pour tout ça.
Pour la conclusion, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de débats sur ce sujet, c'est que on a pu voir que nos cris sont arrivés à vos oreilles, à vous parlementaires, et comme une personne, moi c'est la première fois que je viens en France de manière officielle en tant que député, et j'ai pu voir qu'il y a vraiment un soutien fort, et je voulais remercier Madame Robiel et Tina qu'avec très peu de temps, avec énormément de contenu, on a pu obtenir en 2 jours à Paris. C'était vraiment des acquis très importants. Et je voulais remercier aussi l'ancien ambassadeur et l'ensemble de l'auditoire. Je sais que mes collègues aussi ont quelque chose à dire, donc je vais aussi lui laisser la parole. Donc vraiment, merci à tout le monde.
Hello.
Yeah.
من پروانه پیکان هستم، معاون سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فرانسه. به نمایندگی از جناب سفیر
امباسادور de l'ambassade d'Afghanistan en France, je vous remercie. Je dis bienvenue à ces chers invités venus de Kaboul. Et en représentant le gouvernement afghan et surtout Monsieur l'ambassadeur de France à Kaboul, je vous remercie de votre initiative pour participer à ces débats et surtout le ministère des Affaires étrangères qui a soutenu ce projet de la venue de ces femmes leaders de tout l'Afghanistan, et c'est un choix très varié, très astucieux, et je vous félicite. Ça représente la société civile, vraiment, on doit se féliciter. Je vous remercie et je remercie la vice-présidente du groupe de l'amitié, de l'amicale franco-afghan. De tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'était très intéressant et il y avait des réalités que j'ai découvertes. Mais il y a eu un point que je voudrais, avec votre permission, vous dire, c'est que l'État afghan et la situation de l'Afghanistan est différente de la situation de tout pays qui sort de la guerre. Quand on dit que en Afghanistan, nous avons un pays qui sort de la guerre. En fait, ce n'est pas encore la période. Nous ne sommes pas encore après la guerre. L'État afghan a toujours essayé d'avoir des acquis et protéger ses acquis et d'autre part, il a toujours essayé de lutter contre le terrorisme. On voit très peu d'exemples pareils. On voit souvent des pays qui sortent des guerres, donc la guerre est terminée, et eux, ils se sont acheminés vers la paix, vers de nouveaux acquis. Mais le défi que se soulève le gouvernement afghan, c'est d'un côté conserver ses acquis et d'autre part lutter contre le terrorisme. La présence de ces dames afghanes dans ce programme, ça souligne vraiment que moi aussi, en tant que femme, nous accordons beaucoup d'importance à la présence des femmes et surtout à leur présence autour de la table des négociations. Et il ne faut pas oublier que le gouvernement afghan n'est pas encore lui-même présent autour de la table des négociations. Le jour où cet État sera présent autour de la table, il est vraiment évident qu'on va exiger aussi la présence des femmes et leur participation dans le processus de la paix. Vous avez sans doute vu qu'il y avait une délégation de négociation qu'on avait déterminé, il y avait de nombreuses femmes qui étaient membres de cette délégation, et cela témoigne de l'intérêt que porte l'État afghan à la présence des femmes dans tous les processus politiques, sociaux et économiques du pays. Alors, je vais vraiment être succincte, mais en ce qui concerne le consensus national, on est vraiment conscient du fait que le consensus national, c'est que c'est vraiment la présence des femmes et que les femmes doivent être présentes dans ces négociations. Et pendant des mois, ils ont travaillé dans 32 provinces pour collecter les points de vue des femmes dans n'importe quelle région de l'Afghanistan, même les plus éloignées. Il y a 4 mois où le Loi-Jega, c'est-à-dire le Sénat afghan, où il y a eu beaucoup de femmes aussi, des centaines de femmes qui étaient présentes et qui ont émis leur point de vue, leur opinion, et tout ça a été protégé par le gouvernement. Et l'UIJRGA, c'est-à-dire le Sénat afghan, la réunion des sages, si vous voulez, c'était très important que c'est le gouvernement, sur l'initiative du gouvernement afghan, que cette réunion des sages a eu lieu. Je ne veux pas trop développer, mais et je vais juste dire que merci, je me réjouis de vous voir là et je suis très contente de vous voir ici réunis et de l'attention que vous pourrez. Et nous remercions Madame Fahima d'avoir essayé de réunir cette délégation. Merci bien.